Très bien, je vais me mettre en chemise.
Il n'y a pas une phase où tu nous enregistres en mode loose day et ça, c'est au début du podcast?
Si, bah, normalement c'est le cas en fait.
C'est déjà le cas, j'ai
en train d'enregistrer.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Guerre.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, une fine équipe, à commencer par Juan.
Bonjour.
Ah, un petit peu syncopé.
Je divise les syllabes aujourd'hui.
Ah, original. Ça va être long, ça va être cool. Ça va?
Non, je suis malade.
Ah, shit.
Ouais.
Bon, ça, bah, j'espère que ça va aller, parce que tu veux, non?
Bah, ça va. Okay. Justement.
Ah. Allez, on a commencé sur une bonne blague. Camille.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va, merci bien. Et toi?
Ah, merci, toujours la petite attention.
Comment ça va, Elias? Tu veux nous parler de quoi?
Trop tard.
Je l'ai dit en... Après, avec le deuxième, j'ai dit en proms.
Bien joué.
Hicham. Ouh, grosse énergie.
Ouais. Non, mais en fait, mais quelqu'un lui a marché sur le pied tout à l'heure et du coup.
Ouais, quelqu'un. Oui.
T'es mal assis aussi.
Non, là, ouais, c'est vrai. Je suis vraiment assis. Alors que d'habitude, je suis allongé.
Oui.
Mais sinon, ça va.
On est mieux en position allongée.
Ilias n'arrive pas du tout à maîtriser cet entrant.
Pas du tout.
Bon courage.
Karim.
Comment ça va, Ilias?
Ouais, salut.
Tu vas nous parler de quoi?
ça va être d'un pratique aujourd'hui. Bah, du coup, je présente nos invités. Qui ne sont autres que Herman et Arthur de Pim Pam Poum.
Salut.
Bonjour à tous.
Salut les pardons. Ah, c'est comme ça qu'on applaudit.
C'est ridicule.
Ah,
on est comme chez Act Up.
On s'applaudit pas tout seul, je vais pas le faire.
Chez Act Up. Tu as aussi vu 120 BPM.
Oui.
Mais j'espère que ça sera moins badant. Ce film était beau, mais bon.
Mais merci de nous recevoir dans votre antre.
Comme si on avait le choix.
Bah non, je sais. Mais merci Ilias de nous recevoir.
Vous avez racheté le studio.
J'ai pas été consulté. Hein.
Voilà. Donc,
c'est un plaisir.
C'est un plaisir.
Bah, ça nous fait très plaisir de vous rejoindre aussi.
Plaisir partagé.
Bah, de vous rejoindre, de vous accueillir plutôt.
Je le dis avec la voix la moins naturelle au monde.
Installe-toi, fais comme chez toi.
Mais du coup, bah, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui, les quelques rares qui ne vous connaissent pas? Parce que vous mettez un conglomérat podcast.
Et bah, c'est toujours la difficulté, finalement, de se présenter et savoir ce qu'on fait. On fait un podcast qui s'appelle Pim Pam Poum.
Tout à fait.
Et c'est un podcast de référence assez ancienne. D'improvisation aussi sur des sujets divers.
La lecture d'un thème à travers des références passées,
voilà.
Actuelles.
C'est comme si tu étais dans un salon, dans une grande bibliothèque, tu pioches un livre et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Voilà. C'est peut-être de la merde, c'est peut-être bien. Je sais pas.
C'était beau.
Ma référence préférée, c'est que je me disais, c'est comme si les Robin des Bois et Edouard Vert avaient un enfant ensemble.
Et on te remercie pour cette référence.
Oui,
parce que
c'est très gentil, parce qu'on n'est pas flatteur. À leur niveau encore, mais on progresse.
Mais c'est super parce que c'est totalement l'ambiance qu'on voulait créer.
Ah, cool.
On a réussi auprès de toi pour l'instant.
Auprès de toi.
Il reste beaucoup de gens.
Ah, il faut savoir qu'Ilias est très faux cul, hein, donc.
Mais non, si on réussit pas pour que des faux culs, nous ça nous va. Hein,
j'aime les gens autour de cette table, tout simplement.
Merci. Mais moi aussi, j'aime bien.
Tu peux applaudir pour ça.
Fais attention, Ilias.
Maintenant, l'ordre du jour.
La réunion de CA, quoi.
Pour ce comité de pilotage.
Camille, de quoi tu veux nous parler?
Je vais vous parler des noms et des prénoms. Voilà.
Ok.
Ça a l'air
enchanté.
Chiant.
C'est pas foulé.
Voilà.
Tu sais vendre.
Moi, je vais vous parler de l'âge.
Alors, parfois, c'est marqué en bas des verres. Bon. Alors, pim pam poum.
Et alors, de quoi on va vous parler? Bah, j'en buvais à l'heure actuelle. On va parler
que buvait-on?
Que buvait-on en Russie? Que boit-on en Russie? De la vodka.
Mais oui.
Et de son rapport avec les Russes ou du contraire, finalement. Voilà, donc c'est un sujet assez vaste qui n'a aucun lien avec notre podcast, finalement.
Rappelons-le, tu as des origines slaves.
J'ai des origines ivrognes, ouais. Ouais, c'est ça. Mais on y reviendra, on va pas non plus te rentrer dans les clichés comme ça qui tapent.
On aura tout le temps.
Nickel.
Exactement.
Après, ce sera Hicham qui va nous parler de.
De petits carrés étoilés.
Petits carrés étoilés?
Ouais.
D'extasie?
Okay. Alors, j'ai pas de blague là, je cherche.
Des Lego?
Non, du Hollywood Walk of Fame. Je sais pas.
Des trottoirs, tu vas parler trottoirs.
Des ciments, donc, merci, monsieur Génissi.
Pour les non-anglophones,
Bah, le long trottoir aux États-Unis à Hollywood avec
Boulevard.
Des
voilà. Merci, Juan.
Le Hollywood Walk of Fame.
Le long trottoir des gens célèbres.
De la vulgarisation dans la vulgarisation.
Ou pas, oui, tu vas nous en parler, j'imagine.
Ok. Quel suspense. Ok. Après, bah, pour ma part, je vais vous.
Et toi, Elias, tu vas nous
parler de quoi, Elias?
Ça va, Elias?
Ouais,
Elias, comment ça va? T'as passé un bon week-end?
Très intéressant.
Et ben moi, je vais vous parler des Roms et des Tziganes.
Voilà, si, donc un sujet dérapage potentiel.
C'est... Ouais, c'est touchy. Hein.
Non, mais c'est. Ouais, c'est pas joyeux, joyeux. Mais c'est intéressant. Ouais, enfin, okay. J'espère qu'on verra
c'est...
plus tard.
Est-ce que c'est très intéressant?
Ah, c'est quand t'abordes le génocide, c'est cool ça. Après,
c'est bah, peu... c'est pas loin, écoute, c'est vraiment pas loin. Donc, et après moi, ce sera. Karim,
ce sera Karim
qui nous parlera.
Moi, je sors un peu de ma zone de confort pour cet épisode. Ouh. Et je vais vous parler de musique.
Ah, ah ouais, donc vraiment vrai. Sans filet.
Il y a beaucoup d'ironie là-dedans, j'ai l'impression. Ouais.
Non, non, non.
Acteur, tu
un jour, Camille nous parlera du Moyen-Âge.
Et de musique plus précisément. Musique en général.
D'un groupe de musique.
D'une note.
Mais
de
là.
La, alors, la, le la. Ah, petit indice. Comment, la, la, la,
comment ça a été utilisé la, dans l'histoire la, de la musique la, la, la.
Non, c'est pas Enrico.
Elles sont jolies, les filles de mon pays.
C'était pas... Non, ça, c'était pas Enrico. Enfin, c'était pas l'air, mais.
D'habitude, on attend un peu avant la roue libre.
Allez, bah, trêve de roue libre, lançons le sujet de Camille.
Allons-y.
Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom.
Il a un prénom ridicule et il est moche.
Comment je m'appelle? Dis mon nom, salope.
Michel, Michel.
Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Et bien lui c'est pareil, c'est juste.
Eh bien on est parti. Alors, les noms et les prénoms, oui ça peut vous paraître un petit peu vaste en fait, mais j'ai décidé de retracer un petit peu l'histoire des noms et prénoms et comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à avoir sur nos pièces d'identité un prénom suivi d'un nom de famille. Culturellement, notre nom et notre prénom c'est super important étant donné qu'en général quand on se présente c'est la première chose...
Salut Camille.
Voilà.
Ouais, par exemple, ouais. C'est ton prénom.
Exactement. Okay. Voilà.
Bah, Ilias n'a pas intégré le principe. Il a dit bonjour pim pam poum, par exemple.
Voilà. Ça sera à l'annexe du sujet de Camille.
Ça s'appelle du respect, Juan. Alors... Merci.
Et c'est en fait en général le premier signe de notre identité. Et le système moderne du nom et du prénom qu'on a aujourd'hui date du.
Ouais.
Ouais.
Et ça vient de Franche-Comté.
Entre 1400 et 1000 quelque chose.
Ah, il faudrait que tu réécoutes ce podcast sur le Moyen Âge. Donc non, ça date du Moyen Âge et ça.
Encore.
Et ouais, désolé. Comme quoi
et
il
ça
s'est
vient
passé
de Franche-Comté.
Mais arrêtez, merde. Bref. Et ça date plus précisément du début du Moyen-Âge avec, là c'est un mot qui va excessivement vous plaire, avec l'époque mérovingienne.
Ouais.
On adore.
Mais ouais. Je savais.
Faites sa mère, comment les mérovingiens.
Comment ils faisaient avant du coup? Je pense que tu vas en parler. Mais
oui, exactement. Ouais. En fait, il y a deux systèmes en fait au début du Moyen-Âge concernant les noms et les prénoms. En fait, au début du Moyen-Âge, vous savez, c'est la fin de l'Antiquité. Donc il y a encore le système romain.
Un raccourci un peu rapide, mais
bien
ouais.
Sûr.
Ouais,
bah...
Arrête de déstabiliser, c'est chiant.
Donc il y a le système romain et le système barbare, entre guillemets, je fais une fois de plus des guillemets avec mes doigts et c'est toujours pas très radiophonique, voilà, le système germanique donc. Donc le système romain, en fait, il date du début de l'Antiquité romaine, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait trois noms pour s'appeler en général.
Oh, le bordel.
Eh oui, on avait ce qu'on appelait le prénomène, donc qui était héréditaire, c'est l'ancêtre du prénom, voilà, mais qui était héréditaire. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup d'Ilias dans ta famille, ton fils t'allait appeler Ilias.
Ok.
Voilà.
Okay. Mais pas avec des numéros après.
Donc ça reprend, le, ouais. D'accord, ça reprend voilà. Le prénom d'avant. Enfin,
voilà, ouais. Souvent tu reprends le prénom des autres. T'as le nomen, donc il se rattache à la famille, donc c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le nom de famille. Et t'as le cognomen, donc en fait ça différencie les différentes branches de la famille. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir le même nom de famille que ton cousin, mais en plus t'as un cognomen qui te différencie de ton cousin. Le un beau bordel, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ensuite, t'as le fait.
Non, je suis désolé, il fallait que ça sorte. Et on peut tous savoir notre cognomen? C'est impossible de.
De quoi? De remonter à l'époque?
Ouais, de remonter jusqu'à ton cognomen.
Bah, ça dépend.
Ça va être dur, ça
c'est...
va être dur.
Ouais, voilà. Mais si t'es issu d'une famille barbare, bah, t'en as pas, en fait. Voilà. Ah, faut okay. Que tu sois romain.
Ouais,
voilà.
Okay. J'en dirai pas plus.
Voilà. Donc, par exemple, Jules César, il s'appelait en réalité Caius Iulius Caesar. Mmh. Voilà, c'était ses trois noms. Pour les femmes, c'est pas du tout le cas. En général, elles ont juste un nom. Donc, c'est leur
femme
nom... leur nom de famille, donc leur nomen, mais mis au féminin. Et les pauvres, ils avaient un, voire deux noms s'ils étaient pas si pauvres que ça. Mais ouais. Voilà.
Ah, ça s'achetait en fait.
Non, ça s'achète pas, mais si tu veux, plus tu viens d'une grosse famille, plus t'as deux noms.
Ouais. On va pas gros. Se faire suer à t'appeler par trois prénoms si t'es pauvre quoi.
Exactement, voilà. Et ouais. Bouzeux, viens ici, ouais, ça voilà. Suffit. Voilà, d'accord. Et donc au début du Moyen-Âge, on a ce système-là, et on a également le système germanique qui apparaît, étant donné qu'au Moyen-Âge, on est envahi par les barbares. Et donc les barbares, ils avaient un système de nom unique, c'est-à-dire qu'ils avaient juste un nom. Mais c'est assez fun, en fait, parce que c'était un nom qui était composé de deux ou trois racines d'adjectifs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait créer des noms comme on voulait, avec des mots. Donc par exemple, on pouvait t'appeler, je sais pas, bouteille ailée ou.
Comme les japonais, quoi.
Ouais, voilà.
Ça avait une signification, quoi.
Ouais, voilà, ou pâquerette de tornade. Enfin, on t'appelait un peu comme on voulait.
Okay.
Voilà.
Ça, c'est un peu bizarre, mais bon.
Donc, voilà. Donc par exemple, on a Clovis, qui est un des premiers rois de France, qui est. Voilà. Donc qui va donner le nom Louis, d'ailleurs, par la suite. Et donc Clovis, ça vient de Rod, qui veut dire gloire, et Vig, qui veut dire combat.
D'accord.
Okay. Voilà. Donc glorieux au combat. On a également le nom Bertrand qui vient de Berthe, brillant, et de Ram, corbeau brillant.
Ah.
Voilà.
Corbeau brillant. Bertrand, c'est corbeau brillant.
Bertrand, c'est corbeau brillant.
On se croirait les tribus indiennes.
C'est un corbeau
en
qui
Amérique,
met du pento.
On se croirait sur un chat voilà.fr dans les années 90. Ok, je vais m'appeler comment.
Corbeau brillant
92.
Okay. Donc ça a donné des noms assez sympas, genre Chenulf. Il y en a eu beaucoup des Chenulf, mais je trouve.
Ça c'est un peu perdu, hein.
Ouais, c'est perdu.
Tu veux dire. Dommage.
Et Vulfoad, qui est un de mes préférés.
Ça veut dire quoi ça,
Vulfoad? Franchement, j'ai pas réussi à trouver. Pardon. J'ai pas réussi à trouver, mais voilà, c'est des vieux prénoms d'époque qui sont vachement sympas.
Vulfoad.
Voilà.
Vulfoad.
Alors à partir de la moitié du Moyen Âge, on trouve que le modèle romain avec les trois noms c'est un peu pompeux, donc on décide de s'en débarrasser. On va préférer le modèle barbare avec un seul nom, mais on se dit par contre faut simplifier cette merde parce que mettre trois radicaux comme ça, c'est beaucoup trop vénère. Donc on décide de mettre un seul radical à partir de ce moment-là. Donc ça va nous donner des prénoms qu'on connaît plus aujourd'hui, genre Adèle. À l'époque c'était Adela et ça vient de Adal, ça veut dire noblesse. Okay. Ou Charles, qu'on connaît tous, qui vient de Karl et qui veut dire mec. Pas homme, mec. C'était la partie un peu
ça
plus.
L'argot de.
Enfin, ouais, mec. Ça, ouais, okay. Voilà.
Ah, donc en fait, tous les rois qui s'appellent Charles, ils s'appellent mec quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Mec 3.
Mec 10. Ok. Détente, les mecs.
Et c'est également la période où il y a une hausse des noms bibliques avec la pression de l'église, forcément, de baptême, etc. Voilà, donc. Notamment les maris et les gens, il y en a plein à cette époque-là. Voilà.
Arrive. Jean-Marie.
Wouh!
C'est un peu engagé, hein.
Ou les maris-Jean.
Bon. Voilà.
Il est en pleine digestion, faut pas lui en vouloir.
Et à partir de l'an 1000, tout le monde s'y tue vers l'an 1000 à peu près.
Bah c'est juste, ouais, juste après 1999.
Je m'en souviens bien, moi j'étais en vacances en Grèce, je crois. Mm.
C'est là qu'apparaît le surnom. Donc en fait, le surnom, c'est notre nom de famille actuel. Donc le nom de famille, en fait, il apparaît tard dans l'histoire de l'humanité, étant donné qu'il est apparu il y a 1000 ans, tout simplement.
Donc c'est pas issu des noms que t'as dit avant, des noms...
Non, ça c'était vraiment que les prénoms, c'est-à-dire que les barbares, ils avaient juste un prénom, il n'y avait pas de nom de famille à l'époque là.
Barbare dans tous les sens du... Okay.
Ouais, voilà, c'était barbare de ouf, ouais. Quoi, voilà, on est d'accord. Donc le nom de famille, en fait, il y a plusieurs types de noms de famille, j'ai trouvé ça assez rigolo, et peut-être que vous allez retrouver votre nom de famille là-dedans, je n'en sais rien.
Ça m'étonnerait. Ouais.
Donc... Hicham, cherche ton nom de famille parmi nous, s'il te plaît.
Quelques
doutes. Non.
Donc, déjà, il y a des noms de famille qui sont liés à la localisation de provenance de la famille. Par exemple, chez les Aristos, c'est la principale seigneurie. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes le comte de Chartres.
Oui.
Voilà, il y a des gens qui s'appellent de Chartres.
C'est moi.
Bah, voilà, c'est,
ils viennent probablement
de Chartres. Voilà. Pour les chevaliers aussi, on a beaucoup de noms de famille. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des De La Tour, des De La Porte, des, même du Donjon, il y en a aussi.
On est sur du mobilier, là. On est sur, voilà, on est sur des trucs...
Eh bien, en fait, ça vient de... Vous, c'est que vous descendez probablement d'une famille de chevaliers. En fait, c'est l'endroit que le chevalier devait garder dans le château.
Putain, c'est donc Sœur Elias du Buffet à vaisselle, voilà. C'était pas...
Donc, si vous vous appelez De La Porte, ça veut dire que vous avez un ancêtre qui était chevalier et qui gardait une porte dans le château.
Ouais. Sûr que j'ai chevalier, c'est quand même...
Ouais, mais il était chevalier, c'était le soir.
D'accord, ça peut être la porte des chiottes, c'est pas...
Et pour les plus pauvres, ça va être des lieux, par exemple, dans le village, genre les Dufour, les Dumoulin. C'est-à-dire que soit on habitait à côté du four, soit on habitait à côté du moulin.
Il peut y avoir. Enfin, ouais. C'est connu, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Mais,
oui, voilà, je vous donne des exemples parce que. Le Breton, Dupuis, Dupont, d'Auvergne, voilà, il y en a plein. Sinon, le deuxième type de nom de famille qu'on a, c'est issu de la filiation. C'est-à-dire que on ne sait pas quel nom de famille vous donner, on va vous donner le nom de famille. En nom de famille, le prénom de votre père. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des noms de famille, genre des Martins, il y en a plein en France. Voilà. Ou des prénoms avec le du devant. Par exemple, les du Jacques, il y en a beaucoup en France aussi. Bah, voilà. Ça veut dire que votre ancêtre, son prénom, c'était Jacques.
Bien qu'il gardait Jacques.
Les Ben en arabe, quoi.
Oui, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mmh. C'est comme le système du Ben en arabe.
Il y a même des Jacques Martin.
Peterson dans les pays irlandais, les trucs.
Oui, le
ça.
Fils de Peter.
Exactement.
Du Peter.
On a également les noms de famille qui sont reliés à des métiers, donc ça c'est ce qu'on a le plus en France, je pense. Par exemple, pour les forgerons.
Jean-Michel Forgeron.
Il y en a énormément. Mais en fait, le nom de famille va varier selon la façon dont on disait forgeron, selon les différents patois en France.
Alors vas-y, on
donc par exemple, les Fabre, les Forts, les Lefèvre, tout ça veut dire forgeron. Ouais, Lefèvre, c'est des descendants.
Et même Fabre.
Putain, comment je vais plus y parler.
Oh, le fils de forgeron.
Hakim.
Ou les enfants de Tisserand, c'est ce qui va donner Tesserand, Tissot ou même au Portugal les Texera.
Ah, ouais, oh là, il y en a masse.
Voilà. Il y a également les boulangers. Voilà. Tout ça, c'est des noms de famille.
Ah, vous avez
qui
des sponsors maintenant.
Des métiers. Ouais. Plein. Et il y a aussi les sobriquets. Donc, les sobriquets, en fait, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les gens du village se sont foutus de votre particularité physique et on a décidé que ça deviendrait votre nom de famille.
Ça m'est toujours arrivé depuis tout.
Donc, les le gras, les le gros, les le blanc, les moraux. Moraux, ça veut dire mort. Enfin, les.
Mais ceux qui sont un peu, les gens morts, oui.
Non,
les gens
non, morts.
Les basanés.
Voilà, non, j'en connais des moraux.
Ah,
les
moraux.
D'accord. Voilà, les moraux.
Sobriquet, c'est pas une marque de halouf?
C'est sopiquet, c'est du poisson
c'est
en général.
C'est du thon, ouais. Ah, ok. J'étais pas si loin, c'est un animal.
Oui, c'est vrai que c'est pas si loin. Des news sur le monsieur madame sopiquet.
J'ai vu des cochons de 12, putain.
Ouais, ça c'est vachement
enchaîne
bien.
Camille.
Allez, vas-y, Camille. Ça c'est vachement bien parce que moi j'avais une voisine qui.
C'est pas ta chronique, Arthur. Hein.
Qui s'appelait Mal Coiffe. Et franchement. elle a vraiment des cheveux assez.
Donc on a également.
C'était une histoire vraie. On
est d'accord que la coupe de merde c'est héréditaire.
Donc on a également les Lebon, les Legrand et les Levert. Les Levert, ça me fait marrer. Parce que Levert, en fait, quelqu'un qui est vert, c'est en général un. C'est le masculin de cougar, en fait, quand on dit un homme qu'il est vert.
Ah, vert galant.
Ah oui, vert galant.
C'est ça. C'est que c'est un mec qui va pécho des. Donc si vous avez un Levert. Non, si vous avez un Levert, ça veut dire que c'est un chaud. Voilà.
C'est conclusion de cette chronique.
Un chaud, mais il y a
un chaud du vert.
Ouais. Il y a 1000 ans. Quoi.
Et donc, ce système, en fait, il vient de l'an 1000 et puis il perdure jusqu'à aujourd'hui, étant donné que on a gardé tous ces noms de famille du Moyen-Âge qu'on aime.
Depuis l'an 1000, quoi.
Ouais, depuis l'an 1000, c'est beau, hein. C'est même émouvant, je trouve. Ouais, voilà.
On est très émus.
Alors, au niveau des noms de famille, on a un cas un petit peu spécial, c'est concernant les enfants abandonnés. Donc, ça, c'est une question qui va se retrouver au 18e, 19e et début du 20e siècle. C'est-à-dire, vous trouvez un enfant devant chez vous.
Siècle, on abandonne des enfants.
Non, mais c'est vraiment la période où on a eu le plus d'enfants abandonnés. C'était la mode, c'était d'abandonner les enfants devant les églises.
Ça fait le bad buzz.
Voilà,
bad buzz des modes.
Et donc, admettons, vous êtes un enfant abandonné. Comment vous donnez un nom de famille?
Couffin.
J'ai pas trop envie d'en parler.
Escalier.
X.
Donc, il y a plusieurs options. Soit le nom d'exposition. Position du bébé, le
est sud
et un petit panneau devant.
Hey, Kenny West.
Oh. Ah, pas mal.
En fait, j'ai lu mes notes sans refaire ma phrase. Excusez-moi, j'étais censée me comprendre, mais je me suis pas.
Tu viens de dévoiler à tout le monde qu'il y avait des notes.
Ah, oui, moi, non, moi j'ai des notes, mais eux c'est des génies, ils en ont pas, je vous promets.
Oh, merci.
Et vous avez vu,
c'est la moindre des choses. Hein.
J'essaie de vous défendre, les gars. Donc non, en fait, soit le lieu en fait où on a retrouvé le bébé. Donc par exemple, ça va être les Laporte, les Dupont,
les
ou
canals.
Alors les numéros de porte. Par exemple, est-ce que vous
Monsieur 2, c'est très précis.
Mais non, mais est-ce que vous connaissez le nom de l'archevêque de Paris?
Bernard Laporte, pardon. Non.
Il s'appelle André 23. C'est son nom de famille, c'est-à-dire
qu'il était laissé à la porte 23.
Ah, c'est pas le 23e André?
Non, bah voilà, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Bah ouais. Beaucoup de gens pensent que. Ah, mais c'est parce que c'est le 23e cardinal de France, il s'appelait André. Mais non, pas du tout, c'est son vrai nom de famille.
Mais du coup, Benoît XVI?
Non, bah lui, c'est vraiment le 16e Benoît. Ouais, voilà.
Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre. Si on croise un Laporte, ça veut dire qu'il est né près d'une porte. Si on croise un De Laporte, ça veut dire qu'il gardait une porte.
Ouais,
et
exactement.
Ouais. Et si un Laporte 23, c'est que c'était clair.
Okay. Je vais enlever des gens dans mes contacts.
Et si c'est portier, c'est qu'il faisait des portes.
Mais du coup, il y a de fortes chances qu'un De Laporte rencontre un futur Laporte.
Absolument.
Oui.
Okay.
Pourquoi? Voilà.
Quelle merde.
Bah pourquoi?
Parce qu'il est devant la porte.
Parce qu'il gardait la porte.
Quand quelqu'un dépose un enfant, on dit bonjour madame, si vous faites. J'ai posé un De Laporte, garde la porte. Vous n'avez pas mis ça entre les deux, entre les mains. Et là, je me retrouve avec un Laporte tout seul. Enfin bref.
Et donc sinon,
ça se passait à peu près comme ça.
En nom de famille, pour les enfants abandonnés, il y a des noms plus explicites, par exemple les trouvés ou les perdus.
Putain.
Oui, c'est horrible.
Il n'y avait
mais
pas de race, le mec.
On a en France des Eugène trouvés ou des Jacques perdus, on les salue
des
d'ailleurs.
Aussi. Et oui. Objet aussi. Objet,
objet, exactement.
Grosse dédicace à mon collègue Pierre Trouvé qui nous écoute.
Ah, bah, voilà, il est issu de quelqu'un.
Ça, t'as compris ça. Hein,
Act up.
Et on pouvait également donner le nom de famille selon la fête religieuse la plus proche de là où on avait trouvé l'enfant, par exemple.
Jean-Michel Haïd.
Pac-Man. Fête Nat.
Oh non.
Fête Nat.
Ah, fête Nat, c'est marrant.
Ouais, fête Nat ou Jean-Michel Noël, on sait pas trop. Voilà. Est-ce que vous savez si en France on a le droit de demander à changer de nom de famille?
Oui, on a le droit.
Alors, quelles sont les conditions?
Autre question.
Tu peux avoir un nom qui porte préjudice à ta vie.
Exactement. Donc, par exemple, tu t'appelles Jean-Michel Bitt. tu peux demander à changer de nom. Non.
Alors, tu peux changer une lettre, je crois. Tu peux t'appeler Jean-Michel But à la place.
C'est
mais
ça.
Non, Bot.
Quand tu peux changer deux lettres, tu t'appelles Jean-Michel Put, je crois.
Tu peux changer les, tu peux changer les lettres, l'ordre des lettres. Sinon,
ah, si, tu peux changer de pays aussi.
Rib, par oui, exemple.
Ou tu peux te marier. Attends, attends,
tu peux tuer.
Tu peux échanger de lettres, genre Rib.
Non,
non, ça c'est quand tu changes de banque. Tu changes de Rib.
Non, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de R dans But, on est d'accord, mais voilà. Sinon tu peux aussi changer de nom si par exemple ton nom est lié avec celui d'une personne célèbre qui a une mauvaise réputation. Par exemple, tu t'appelles Gérard Mussolini, bah tu peux demander à changer de nom de famille.
Ah.
Voilà.
Ouais.
Et
oh,
si y a un jeu de mots avec ton prénom et ton nom que t'assumes pas.
Genre ouais. Anas.
Ça pareil, tu peux.
Ou la raclette.
Oui, tu peux. Alors justement la raclette, j'allais
Aude,
en parler.
Aude Perrier.
Mais voilà.
Et sinon, il y a aussi s'il se trompe sur ton nom de famille.
C'est ce qui t'est arrivé, c'est pour ça que le tien c'est un ça, véritable
ouais.
merdier.
Ouais.
Genre ils ont fait une rature.
Non, non, ils ont mis un espace en plein milieu de mon nom de famille, comme si 14 lettres ne suffisaient pas. Ouais. Du coup, j'ai 15 caractères dans mon nom de
moi,
famille.
Moi, je préférais Kamehameha, ça t'allait mieux.
Et ça permet aussi, par exemple, si vous avez, je sais pas, une cousine dans mon famille, vous trouvez qu'il est sympa et je sais pas, non, d'accord.
Pas de cousine.
Ok, bah, on sait jamais. Mais vous trouvez qu'il est sympa et elle est la dernière personne à porter ce nom-là en France et elle a eu que des filles et bref,
oui,
son nom est en voie d'extinction.
Prestige-là,
vous ouais. pouvez demander, vous, à récupérer okay. ce nom de famille-là pour éviter l'extinction de ce nom de famille.
Pour représenter la MIF.
Ouais, exactement. Ouais. Et vous pouvez sinon, et ça c'est la le dernier.
Les prochains Booba, quoi, ils s'appelleront tous Booba.
Absolument.
Mon dieu, quelle horreur. Bien.
Il y a déjà beaucoup de Rihanna hein, dans le.
La dernière. La dernière possibilité, c'est bon. De. C'est si jamais vous voulez porter le même nom de famille que vos frères et sœurs et que ce n'est pas déjà le cas. Une fratrie peut demander.
Ah,
du coup,
j'ai Keblo, ouais.
Ouais, moi aussi.
Voilà, mais pas pour les demi-frères et sœurs, hein, c'est que pour les vrais frères et sœurs. Voilà. Donc ça doit pas arriver souvent, mais ça doit arriver. Voilà.
Ok.
Et il y a, alors là, Hicham, j'ai beaucoup pensé à toi.
Tu peux te marier là. Aussi et prendre le nom de ta meuf.
Oui, bien sûr, mais là, du coup, tu fais pas une demande. Ouais, oui, mais non,
pas
là,
plans,
tu fais, pas,
Karim, hein,
tu fais pas une demande de changer de nom de famille. Parce que là, c'est une procédure que c'est une... tu fais une demande à la garde des Sceaux, carrément. Enfin, voilà,
on est sur du pénal.
On se marie
franchement.
Voilà. Donc, Hicham, sinon, ce que tu peux, c'est faire franciser ton nom de famille une fois que tu as obtenu la nationalité française. C'est-à-dire que, Hicham, ton rêve qui est de s'appeler de Michel Delain sur Hammer-les-Bains, tu vas pouvoir le réaliser.
Sérieux?
Ouais. Voilà.
Mon père serait fier.
C'est vraiment ton rêve. Vraiment ton rêve
ouais. ouais, il veut s'appeler Michel Delain sur Hammer-les-Bains.
J'essaye de m'intégrer, les gars.
Voilà.
Et ben j'ai hâte.
Et donc, en fait, le but, et j'ai trouvé ça assez horrible comme phrase, c'est de faire perdre la consonance ou le caractère étranger. Voire de traduire le nom. Donc tu pourras carrément t'appeler Hicham, le fils de l'homme aux yeux rouges. Concernant les prénoms aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de prénoms vous pouvez donner à vos enfants?
5
maximum.
70. Disons 3, que 3. Toi t'en as déjà 3. 4.
Ouais, moi j'en ai 4.
Mais ça dépend, parce donc, que est-ce qu'on compte les doubles prénoms
oui,
genre
Jean-Christophe. Très bonne question de
non,
Karim,
si ça, compte comme, ça, ça compte comme un seul prénom. À partir du moment où il y a un trait du nom, ça compte comme
6.
Un prénom. C'est illimité. Donc si vous voulez en donner 70, vous pouvez vous éclater.
Est-ce qu'on peut donner les 150 Pokémon avant le nom de famille? C'est parfait.
Tu peux se marier en mairie.
Ça laisse le choix.
Qui est mal intentionné.
Donc tu peux. Le maximum en France, il est de 9.
Il est 9 en
France. La plus grosse finalement.
Est-ce qu'on peut ne pas donner de prénom à son enfant? Oui, c'est également possible.
Sérieux.
Eh oui.
Il choisit machin ou bidule, ça reste un prénom.
Non, tu peux dire quand tu vas le déclarer, dire je lui donne pas de prénom.
Je lui fais la gueule dès maintenant, je lui adresse la parole.
Ça se passe beaucoup en entreprise.
Comme
la Durand. Voilà.
Ah, oui.
Comme c'est obligatoire, du coup, c'est le juge aux affaires civiles qui va choisir le prénom pour vous.
Il va dire Michel, comme tout le monde.
Peut-être.
Le Jacques.
Et on peut, et ça vous le savez, se faire refuser un prénom si le prénom est jugé infamant pour l'enfant. Donc, par exemple.
Qui décide de ça, clairement, Pikachu.
Ça, c'est le juge aux affaires civiles également. Voilà, c'est la mairie en fait qui signale au juge si jamais il trouve que c'est un peu limite comme prénom.
T'avais pas fait un peu de droit, toi?
Ouais. T'as des exemples, j'imagine, parce que.
Oui, bah par exemple, il y a le fameux, effectivement, monsieur et madame Clette qui voulaient appeler leur fille Lara, et je trouve que c'est le top du top, quoi, Lara Clette. Ils ont
une bande de sacs à merde.
Ils ont dit non. Il y a Nutella qui est très souvent refusé en France.
Et oui, à cause de l'huile de palme.
Il y a. C'était en Belgique, oui, en Belgique, il y a eu des jumelles qui sont nées Vagina et Clitorine, et ça a été refusé.
Voilà, c'est étonnant.
Il y a une famille qui avait le nom de famille de Renault aussi, et il voulait appeler une fille Mégane, et l'autre.
Renault-Mégane, ouais.
Et il y a une histoire.
Est coupée, je sais pas.
D'une fille qui était née, ou d'un fils qui était né sur le périphérique, et ils ont voulu l'appeler Périphérique Nord.
Ah,
excellent.
Que c'est mignon.
PN. Et c'est très précis finalement, comme prénom.
En France, il y a également Fraise, qui est souvent refusé, Titeuf, Christ et Lucifer.
Il aurait la classe au collège, lui.
Alors, par contre, Fraise, c'est.
Oui,
c'est vrai qu'à partir du moment où on peut appeler sa fille Églantine, je pense qu'on peut.
Vanille. Bah, les cerises,
cerises de Groupama.
Voilà, je l'attendais venir, c'est bon, elle est là, cerise de Groupama. Voilà.
Bah, il y a bien un mec qui s'est appelé Hitler aux États-Unis.
Hitler. Ouais, mais les...
non, mais Donald Trump.
Alors, moi, du coup, pour finir là-dessus, j'ai essayé de chercher un petit peu l'origine de vos prénoms.
Merde.
Tous. Voilà.
Oh, pète sa mère.
Donc, Hicham, on commence par toi. Hicham, pas de surprise. Toi, ça veut dire.
Généreux.
Généreux, exactement. Karim.
Celui qui fait le bien autour de lui.
Ouais, noblesse d'âme, exactement.
Oh. Et je suis juste à côté de lui, et franchement, je me sens super bien.
Fais comme lui.
Donc, Juan, ça vient de Jean. Donc,
bah, qui vient sans
de
déconner.
Voilà, qui vient de géant. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire, mais c'était le c'est probablement le prénom le plus donné.
Ouais.
En Occident.
Je suis pas du tout unique.
Il faut ça.
Tu vas applaudir tout l'épisode, toi.
En fait, aux alentours de l'an 1000, en France, un homme sur deux portait ton prénom.
Ouais.
Aucune originalité, mon gars. En
fait, ouais, mais si moi j'ai une galère et que je gueule mon prénom, là,
bah,
j'ai une armée.
Il y a la moitié des gens qui se retournent.
Toi, si tu gueules Hicham, il y a tout le monde qui s'en. Bah, tu sais quoi, je vais m'appeler Mohamed maintenant.
Ah, ok.
Ilias, alors Ilias, toujours dans la modestie. Ça vient de. Ça vient de Élie, ça veut dire Dieu, et plus précisément, mon nom est Dieu.
Dieu, il porte pas des pantalons en satin saumon.
Il est très bien le pantalon.
Arthur, alors Arthur, ça vient du gaulois, exactement, Arthos, qui veut dire ours, exactement. Et enfin, Herman, c'est germanique.
Monsieur,
non. Oh putain, Hicham, voilà, Herman, monsieur. Donc non, Herman, ça vient du barbare germanique, et ça vient de Eri, armé, et man, homme, donc l'homme armé. Voilà.
Exactement, je viens toujours avec mon glock.
Reliqué.
Allez. On t'a demandé de poser ton glaive en entrant, de toute façon, donc on l'a bien vu.
Oui, j'ai pas tout à fait compris.
Et voilà, c'est tout pour moi.
Mais c'était bien instructif.
C'était très intéressant. Très intéressant. Non, franchement, je comprends pourquoi tu dis très intéressant, parce que franchement, c'était vraiment hyper
intéressant. Et là, signé de radio, encore plus intéressant.
Merci.
Et ben maintenant on va rentrer dans le dur là. C'est même plus de la roue libre, c'est de la roue espace-temps.
Et ça ne sortait nulle part celle-là.
Et ça va être
on
le
a
sujet
tellement foutu le bordel.
Le sujet poum poum short.
Je te remercie de m'avoir laissé seul avec les Ruskov. Ils m'ont fait boire des litres de vodka. On a topé, retopé, je sens plus mes doigts.
Fuck that bitch, this is Russia.
Et ben la denrée, on est en France. Allez, tu sais. Magnifique, tout est comme un russe.
Waouh, c'est extraordinaire, je m'attendais pas à un tel lancement quoi, c'est absolument hallucinant. Bon.
On peut s'arrêter là du coup.
Merci Beansport.
Merci.
Franchement, c'était extraordinaire. Très très beau lancement. J'ai entendu, parce que j'ai écouté les épisodes quand même avant de venir.
Oh.
Vous aviez pas mal traité du sujet du vinaigre blanc.
Il est vrai.
C'est un sujet éminemment important.
C'est vrai.
Mais pour moi, vous avez un peu délaissé d'autres fluides très intéressants.
Roue libre.
Et parmi ces fluides, il y a la vodka qui fait un très bon spray, hein, je vous l'indique, pour tout ce qui est un peu odeur dans les vêtements. Hein, c'est très utilisé dans les friperies. Ouais. Si vous le coupez
vous
avec de l'eau, c'est
beau,
très...
Chez les SDF aussi, non.
Les SDF.
Ils isolent la famille.
Si les SDF boivent de la vodka, bon, voilà, vous le savez. Je pense que vous avez laissé ce sujet de côté, peut-être parce qu'il est un peu touchy.
Ouais.
Vous avez peut-être un peu des préjugés. Ouais, c'est un alcool sans goût.
Froid.
C'est un alcool qui est bu par un peuple. Voilà. Hein, souvent, on a envie de coller comme ça l'idée de vodka avec les Russes. Mmh. Et, oui.
Et
c'est un peu un préjugé.
La pomme
de
terre.
Ça vient du Maroc.
Et vous, vous aimez pas les préjugés.
Non,
vous aimez pas les préjugés.
Ouais. Et pourtant, moi, je dirais que c'est un préjugé vrai. En fait, c'est un préjugé vrai. C'est un préjugé qui s'avère vrai dans la réalité. Et quand on dit merci.
Du vrai, terme inventé par Pim Pam Poum.
Ouais, on a déposé ce nom. Quand on dit que les Russes ont un problème avec la vodka, bah en fait c'est vrai. C'est vrai, il y a un vrai problème des Russes avec la vodka. En fait, la vodka, si on regarde un peu l'histoire russe, c'est vraiment une partie intégrante de la culture russe. Hein. Ça picole sec en fait depuis le 10e siècle à peu près. Et si on boit des alcools,
c'est l'an 1000 du coup. Et
alors
ouais.
C'est l'an 1000, c'est vraiment le passage à l'an 1000, ils ont beaucoup
craint. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on va donner des prénoms et boire de la vodka. Ah bon.
Tout s'est passé là, et ils avaient très peur du bug de l'an 1000. Et donc si on boit des alcools forts en Russie, c'est d'abord parce qu'on n'arrive pas à faire des alcools faibles, quelque part, par opposition. La vigne, ça pousse pas bien avec le climat russe. Par contre, ce qui pousse bien, c'est là...
La pomme de terre.
Voilà, patate. La patate. La patate, ça pousse bien. Et d'ailleurs, savez-vous d'où vient le mot vodka?
C'est un mélange entre propagande et...
C'est intéressant ce que tu dis.
Et le fleuve.
Le fleuve de la propagande.
Et le fleuve du monde. Très bien, vous êtes complètement à côté de la plaque.
Camille, la main. Camille.
Alors, je sais qu'en tchèque et je crois en polonais aussi, donc en russe, ça doit être plus ou moins pareil.
Vas-y, Hermione.
Doucement les raccourcis, Camille. Doucement les raccourcis.
T'as pas intérêt de te tromper une fois que t'as fait une annonce comme ça.
Mais non, mais oh, ça se dit Voda. Est-ce qu'il y a un rapport?
Mais oui, oui, bravo. Oh, c'est extraordinaire, c'est exactement ça. Voda, ça veut dire eau en russe. Voilà. Parce qu'en fait, c'est quoi la vodka? C'est un mélange d'éthanol, la patate, avec de l'eau. Hein. Et quand Aristote disait l'alcool, c'est de l'eau, il le disait souvent. Ouais, il avait pas complètement tort le titre.
Surtout après un beau gratin de pommes de terre,
il disait ça. Ah oui, il disait l'alcool, c'est de l'eau.
Je crois que la rime était un peu.
Et dans l'histoire, on constate ça. Hein. Quand on remonte un peu, alors. L'histoire, et là Camille, tu vas pas me démentir, l'histoire ça commence toujours par une légende un petit peu.
Hein. Oui, c'est vrai.
Toujours des trucs un peu fous.
Non, chez nous ça commence toujours par la Franche-Comté, mais vas-y.
Ça commence toujours par Camille, chez moi, l'histoire. Voilà.
Et donc Vladimir le Grand, en 1980, ouais. 980, en 980, oh, en 980, on n'est pas en 1000, on est en 980, il aurait refusé. C'est exactement.
T'arrêtes de faire la maline, c'est pas vrai.
C'est exactement ce moment-là. Vladimir le Grand regarde avec intérêt ce que font les Carolingiens. Et il aurait refusé en fait l'islam comme religion d'État, justement au motif que
ils boivent pas de vodka.
Voilà, exactement. Donc là, il dit non, c'est pas possible. Mon pays peut pas accepter ça.
Tu fais trop froid.
Et donc là, c'est un peu la naissance d'une culture russe, un petit peu comme ça, où la vodka, l'alcool, en général, va être tantôt tolérée, tantôt encouragée, tantôt punie. En fait, on est dans une position ambiguë. Et pourquoi ambiguë? Bah, parce que, en fait, on s'aperçoit que ça rapporte de la thune. Et donc, quand Aristote disait l'alcool, c'est de l'eau, il oubliait de dire en complément. L'alcool. Là, c'est Hegel qui l'a complété. L'alcool, c'est du flouze.
Bah
ouais. Ouais, c'est ça aussi, ouais, ouais. En 1540, Ivan IV de Russie, quand même le quatrième.
Tu connais bien Camille.
Oui, mon poteau, oui.
Ivan, ça vient de Ivan, il faisait beaucoup de blagues. Il met en place les kabaks dans les principales villes de l'Empire. C'est quoi les kabaks?
C'est un petit réceptacle pour faire les courses.
Pas du tout.
C'est une région du Canada?
Pas du tout non plus.
Ah, c'est tabernacle.
En fait, c'est un estaminet. C'est quoi un estaminet?
Un estaminet, c'est un chat qui existe en espagnol.
On n'y est pas du tout.
C'est
un lupanar. C'est quoi un lupanar?
Un bordel.
Ouais, bon, bah, en fait, c'est un peu avant.
C'est un parasol.
C'est une taverne d'État et c'est les seuls qui sont en fait légales. C'est bien en fait. Ça fait une situation monopolistique sur la production et la vente. Donc là, ben voilà, on engrange
on les bars
pas mal de thunes, voilà, on remplit les coffres royaux, et une fois qu'on a plein de thunes, qu'est-ce qu'on fait? Bah vodka. Vodka, oui.
Vodka.
Mais après, la vodka, rapport ambivalent, rapport ambigu, en fait, ça va redevenir une punition un petit peu. Hein. Là, il y a le tsar Pierre Ier le Grand, 1725.
Le fameux.
Un peu après les Carolingiens, mais bon,
ouais,
presque contemporain. Qui là va donner une dimension punitive à la vodka, en fait, puisque dès lors qu'il y aura un retard, donc on arrive par exemple à son travail 5 minutes en retard,
oh,
punition
dans les yeux.
T'es sûr que c'est pas dans les BDE et les écoles étudiantes,
les trucs étudiants là? Ah, mais si, le tsar Ier le Grand, il était trésorier au BDE de la fac de
Créteil.
De Créteil.
C'était Créteil.
Mais non, Crémin-Bicêtre.
Ah, pardon.
Ah, oui,
oui. Oh.
Merci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, t'arrives en retard, qu'est-ce que tu dois faire? Un cul sec d'un litre de vodka, obligatoire.
Ah oui, un cul sec d'un litre. Hein.
Et après, t'es efficace au bureau, hein. Voilà. Les rapports, les PowerPoint.
Nous, on fait un cul sec d'un shot, on fait la gueule.
Oh non,
ça pique.
Donc là,
j'ai un PowerPoint.
T'es quasiment mort en fait avec cul sec d'un litre.
Bah, même là, même les Russes blancs, à ce moment-là, tournent rouge. C'est une vanne. En 1860.
Allez, on peut pas le faire à chaque fois non plus.
Là, la vodka, ça devient vraiment une boisson nationale. C'est vraiment institué dans les mœurs. C'est vraiment très présent. Et c'est 40% des revenus de l'État. Ah, 1860.
40.
Ouais, la Russie, c'est 40% de revenus en provenance de l'alcool.
Non, soit ils étaient très pauvres, soit ils vendaient beaucoup de vodka.
Ouais,
mais les
deux. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment.
40%, ça me semble énorme.
C'est énorme.
Est-ce qu'il n'y a pas un ministre de la vodka? J'ai pas vérifié, mais il faudrait voir. C'est assez important. Bon, la Première Guerre mondiale, alors...
Ça a picolé sévère dans les tranchées, non?
Voilà, on a envie de se dire, ça picole sévère dans les tranchées. Mais ça picole sévère dans les tranchées françaises, dans les tranchées allemandes. Mais finalement, les Russes, ils font l'inverse.
Une guerre, c'est un foutoir, personne ne sait tirer n'importe où, tout le monde est bourré.
Ouais,
ça fait des morts partout, alors que d'habitude, c'est plutôt... Voilà.
Et la Russie, l'Empire russe...
C'est propre une guerre, d'habitude.
Non, mais là, on a du mal à comprendre la position russe. Ils disent, on va interdire l'alcool en vente au restaurant. Et alors là, catastrophe, parce que quand c'est 40%, bon voilà, vite l'Empire russe s'est retrouvé au bord de la faillite, diminution des recettes de l'État, inflation, multiplication des distilleries clandestines, un vrai bordel quoi.
Un vrai lubanard.
Bim, révolution russe.
Mais évidemment, à cause de 1917, oh. Voilà. Ah. Les bolcheviks arrivent. Est-ce que c'est à cause
les
de ça faut aller l'écrire sur Wikipédia. Mais pour le moment, c'est pas encore lié complètement.
Je vais faire un mémoire là-dessus. Là. Ouais.
En effet, les bolcheviks arrivent, 1917, fermeture des usines de vodka, destruction des bouteilles. Pourquoi?
C'est la fin de soirée, quoi.
Mais pour quel recycler gâchis.
Pour se énerver,
simplement. Pourquoi? Bah, pour recycler, oui, on est sur un programme zéro waste, clairement, oui, clairement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une idéologie de plus, hein, une idéologie.
Faut savoir qu'on a
c'est qu'en
un
fait,
petit peu de
l'alcool, c'est quand même. Sujet, voilà. L'alcool, c'est associé à la propriété privée et la religion. Donc vraiment, c'est
ah
quelque
oui,
chose
d'accord.
de très subversif. Ah, qu'il faut interdire.
D'accord. Okay.
Donc le régime.
On peut les mecs quand même. Parce qu'on se picole et après. Oh non, c'est la propriété privée. Ah, on arrête.
Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Bah, il faut mettre en place des régimes. Donc le régime fait tabula rasa, tabula vodka du passé. C'est encore un jeu de mots. Donc là, je vous invite à rire.
C'est un festival.
Et donc, il est obligé de faire machine arrière, en fait, au bout d'un moment. Parce que finalement, c'est une position trop dure, trop brute. Et donc, il rétablit des points de vente officiels, des
cantines,
de bornes d'apport volontaire de vodka.
Chez les Boy Scouts.
Ouais, clairement. Clairement, voilà. Bon, il y a un assouplissement. Et Staline arrive. Staline arrive avec
bon
voilà, son bras plus petit que l'autre, sa peau vérolée. Bon, on a du mal à voir la dimension fun du type. Oh, et pour cause, à part la moustache, il n'y a pas grand-chose. Et lui, il encourage la consommation d'alcool. Hein. 2 verres de vodka par jour pour chaque soldat.
Ah,
pourquoi
oui.
Pour supporter les rudes conditions de combat, pour souder les troupes. Rien de tel que la vodka.
Pour jouer aux cartes.
Tous les c'est assez formidable à cette époque. Et là, il y a vraiment une. La vodka prend une dimension symbolique de résistance, de patriotisme, de courage. Mais faut pas être naïf, surtout avec Staline. C'est aussi un instrument de pouvoir. Tu vois, ça permet de supporter un peu le côté un peu relou de l'URSS. Hein, on peut le dire.
Le piano du peuple.
Quel côté relou, voyons. Tu as fait.
Moi, je sais pas. Les formalités administratives, les goulags. Enfin, je sais pas. Là-dedans, ce qui est le plus embêtant.
Tous ces processus, ce que nous organisons. Ces camps de vacances.
Bon voilà. Donc bon, on boit un coup de vodka, ça va mieux, quoi. Et puis il y a aussi des petits procédés marketing, intelligence smart, agile, qui sont mis en place avec chaque bouteille. Disruptif, ouais. Chaque bouteille, mais clairement, chaque bouteille. Non, pas tellement, plutôt un process de rationalisation et d'unification où chaque bouteille a la même apparence. Et là, du coup, ça renforce le sentiment d'unité nationale, d'appartenance.
De partage.
À la Russie et à la vodka. Bon, voilà. Bon, après Staline, bon, bah voilà, bon, il faut s'inscrire, bien sûr, en contradiction avec ça, encore un retour. Khrouchtchev, Brejnev, tous ont essayé un petit peu d'endiguer l'alcoolisme, mais c'est finalement Gorbatchev qui a pris le sujet à bras le corps. Hein. C'est lui qui a vraiment mis les mesures les plus dures par rapport à ça, et il a institué la vodka par coupon. Hein. Une bouteille de vodka égale un coupon,
genre
hyper relou. Quoi,
le ticket reste vodka, quoi.
Oui, exactement, ouais. Avec ton CE, tu peux en avoir un petit peu. Et puis des amendes hyper impression. Donc l'inconvénient, bah, c'est évidemment qu'une fois que tu as un marché très régulé comme ça, tu as un accroissement du marché noir. Mais ça marche, objectivement. Réduction de la consommation par personne, augmentation de la qualité de vie, diminution de la criminalité. Mais évidemment, c'est très impopulaire, puisque c'est vraiment dans les mœurs russes. Et donc, Gorbatchev finit par être surnommé le secrétaire minéral. C'est une blague qui fonctionne même en français. Là, vous n'êtes pas obligé de rire. C'est pas vraiment une blague en fait.
C'est
un
surnom. Secrétaire minéral, c'est bien.
Et donc là, ça aggrave les... Alors voilà, là je vous lis la phrase Wikipédia. Ce trouble aggrava les problèmes internes de l'Union qui finit par chuter en 1991. Il y a vraiment un lien qui est fait dans la même phrase entre les mesures sur la vodka et la chute de en 91. Donc là, vraiment, le lien paraît évident.
Tu réfutes cette version?
Non, mais alors. Ça me paraît évident, c'est sur Wikipédia.
Vous me donnez envie de tout plaquer et de faire un mémoire
d'abord
sur
la vodka.
sur la vodka à la Russie, les gars. Hein.
Et donc,
moi, j'en profite par contre pour placer une petite punchline sur Staline pour vous situer un petit peu le personnage. Il a dit la confiance n'exclut pas le contrôle.
Oui. Et il a dit également pas d'homme, pas de problème.
Ah.
Et celle-là est bien aussi.
Il l'a pas dit juste après, sinon on aurait remarqué un truc.
Ouais.
On aurait dit oh là là, lui, il commence à dire.
Bon, après cette période pas très fun, Gorbatchev, tache de vin, tout ça pas cool. Boris Yeltsin. Alors là, on se souvient tous des images, tout ça, il est rigolo à Camp David, tout ça.
Évidemment,
il est burlesque, voilà. Il est burlesque.
Donc évidemment, ouais. C'est une image un peu, bon, voilà, tout le monde reconsomme de l'alcool, surtout qu'il prend des mesures un petit peu, voilà, fin de monopole d'État. Donc là, tout le monde
YOLO.
YOLO, ouais. Un peu période YOLO. Qualité de vodka très aléatoire, hein, voilà, pour les amateurs. C'est un peu une période pourrie. Et donc Poutine revient et il renforce un petit peu. Mais pas trop non plus, et de l'aveu même de Medvedev.
Couille molle, finalement.
Ouais, puissant dans l'annonce, mais finalement, dans les faits, c'est pas suivi. Est-ce que j'irais jusqu'à dire couille molle? Je ne sais pas, je suis sur écoute russe depuis 6 mois. Et donc, je dirais, bon, courageux, mais bon, pas suivi des faits à cause d'une mauvaise volonté des Russes. Et donc, de l'aveu même de Medvedev, c'est assez moyen, quoi. C'est assez moyen. Et forcément... Dans ces allers-retours comme ça, historiques, entre ah, c'est punitif, c'est finalement on libéralise, on régule, ça pose. Il y a des mecs hein, au milieu de tout ça, et ça crée quelques problèmes de santé publique.
Et c'est là que j'interviens, c'est quand il y a un problème de santé publique.
Bah oui, évidemment. Bah,
Docteur Herman.
Exactement. Et on parle vraiment d'un problème de santé publique comme l'obésité aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on en meurt. De l'alcoolisme en Russie, ce qui me fait penser d'ailleurs que ça peut donner lieu à, dans les prochains films de guerre froide, on sait jamais, à des affrontements entre des gros et des mecs ivres, qui peut être une sorte de dystopie comico-tragique, assez sympathique, assez burlesque. C'est peut-être déjà le cas, on sait. Mais pourtant Poutine il se conserve, mais bon, l'autre il dégénère un peu. Mais donc des problèmes de santé publique, c'est-à-dire qu'on en meurt massivement de l'alcoolisme en Russie, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a à peu près 500 000 morts par an liés à l'alcoolisme.
C'est pas mal.
500 000 ?
Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans des proportions...
Juste en Russie. Toute la Franche-Comté qui est rayée là car d'un coup là.
J'osais pas l'avouer parce que Camille, on va la perdre tout de suite.
Oh là là.
Non mais c'est des proportions qui rappellent des épidémies moyenâgeuses.
Oh, oh.
Choléra, peste et compagnie.
Voilà. C'est malin.
Donc, après, la vodka ou l'alcool, on n'en boit pas... Enfin, on n'en meurt pas comme ça.
Ah bon ? Là, on va survivre, ça veut dire ?
Exactement. Un shot ne tue pas... Deux shots ne tuent pas. Trois shots de shérif.
Bonne avis d'une shot de député.
Donc là, on plaisante, hein, je vous vois rigoler. Mais sachez qu'il y a une histoire, par exemple, qui est assez enfin, qui est, je sais pas si elle est connue, mais en tout cas, elle mérite d'être racontée. John Bonham, qui est le batteur de Led Zeppelin,
absolument.
Voilà, est mort, donc étouffé par son vomi. Et dans la journée qui a précédé à cet étouffement, il a bu 40 shots de vodka dans la journée. Et il a pris dans la matinée. Pour le petit déjeuner, hein, quoi. Donc, il a pris 4 quadruples vodka.
Ah, mais non,
voilà.
Mais
Donc, finalement.
Avec les croissants.
Avec les croissants, ça passe très bien. Donc, lui, on peut dire qu'il est mort en buvant de la vodka. Très clairement, il en est mort dans la journée. Ça n'a pas duré 24 heures, terminé. Bon,
pourtant, les ouvriers qui arrivaient en retard, ils buvaient quand même un litre de vodka.
Mais ils n'étaient pas batteurs de Led Zeppelin. Hein. Ah, peut-être que c'est l'un ou l'autre. Alors, peut-être qu'il y avait genre plein de groupes de Led Zeppelin partout.
Alors, les tapis étaient connus pour être des fragiles en plus.
Voilà. Non, mais du coup, tout ça pour dire que la consommation d'alcool fort en Russie entraîne la mort par divers moyens, donc notamment des homicides. On appelle ça la criminalité éthylique, ça a vraiment un mot. Ce qui veut dire que 50 à 70% des homicides commis en Russie sont commis par des gens en état d'ébriété. Ce qui fait quand même pas mal.
Ouais,
c'est normal.
Voilà, donc en gros, quelqu'un qui te tue. Tu sais qu'il est bourré, mais bon, en même temps, t'es mort, tu t'en fous.
Oui.
Mais il y a aussi des violences domestiques qui se créent à cause de l'alcool.
Bien sûr.
On est dans un pays où on divorce le plus, donc où les cellules familiales explosent. Les problèmes, c'est la Lituanie et le Danemark, hein, donc comme quoi la misère est moins pénible au soleil. voilà.
Ça balance sur quelqu'un qui va bientôt mourir.
Ça balance sur le soleil, voilà, désolé. Et il y a aussi tout un aspect de l'alcool qui augmente la propension au suicide. Donc est-ce qu'on a un état dépressionnaire et qu'on essaie de noyer notre chagrin dans l'alcool,
parce qu'on est juste
lucide, on essaie de sauver de notre état dépressionnaire pas l'alcool, donc bref, en gros,
l'œuf ou la
poule. Gros, plein de causalités exactement, mais la même conséquence, la mort. Voilà,
la meilleure.
Donc on va chiffrer un petit peu aussi la consommation d'alcool des Russes par rapport à notre consommation d'alcool à nous. En Russie, on est à 15 litres d'alcool par an par personne.
C'est
aucune réaction parce qu'on sait pas ce que ça représente.
Exactement.
D'alcool pur, je crois.
Alors voilà,
c'est l'équivalent d'alcool pur.
En France, on est quasiment dans ces proportions puisqu'on a 13 litres d'alcool par an.
Où la France ?
Surtout en Franche-Comté. sauf que en Russie, c'est que de l'alcool fort. C'est-à-dire qu'on est sur de l'alcool qui est au-dessus de 25-30%.
C'est ça la diff.
Donc ça commence à taper sur le système. Donc Poutine a pris des mesures pour endiguer un peu cet alcoolisme national. Donc il a fait augmenter le prix de la vodka.
Ils auraient dû la rachote.
Ou peut-être aussi, ils ont surtout réduit les points de vente. Et ça, c'était un pied de nez, tous les Russes. Donc, sauf que ça marche moyen, on s'en rend compte. finalement, puisque les Russes ont adopté une Amazon. Sorte d'alcoolisme de contrebande ou de substitution. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à faire leur propre alcool eux-mêmes.
Non, des microbrasseries.
Et là, sur l'histoire des alcools de substitution en Russie, attention, vous qui avez refait votre grenier il n'y a pas longtemps à votre studio, là, on est sur les mêmes produits. Hein. Donc, l'alcool de substitution a un nom. Il s'appelle le Samagon.
Ah,
un nom de tisane, c'est plutôt cool.
La Badiane. Ouais, ou deux boss de Final Fantasy, je sais pas.
Ouais, c'est vrai, ouais, XP38.
Voilà. Le 7.
Et donc, qui signifie en russe à distiller soi-même. Ça veut tout dire. Do it your own.
C'est l'agence ancienne locale, quoi.
Je suis sûr que Ravensburger, il faisait des fascicules. Le premier pour 1€.
Exactement. Donc, alors, ces alcools-là, ils sont faits à base de choses assez simples, hein, de riz, de patates, de céréales fermentées, alambic et compagnie.
Éthanol.
Exactement.
Quand tu nous tiens.
Et au début du XXe siècle, il y avait déjà cette. Parce que vous avez vu, il y a eu un aller-retour entre les interdictions et les autorisations sur la vodka. Donc, ils ont dû s'adapter à plusieurs temps dans leur histoire. Et donc, au XXe siècle, ils ont inventé un alcool de substitution. Très dur à dire.
Ouais.
Ça s'appelle le kanjon. On appelait donc les kanjistes, les gens qui buvaient de ce truc-là. Et donc ce truc-là était composé d'alcool à brûler, d'eau de toilette. On est là-dessus. Alors que le Samagon aujourd'hui, c'est plus sympa. C'est de l'alcool à brûler, c'est du vernis, c'est de l'eau de Cologne. Enfin, c'est voilà.
C'est une boisson d'homme. Quoi.
Du vernis pour le bois, pour tout ce que tu veux. On est là-dedans. Donc on est arrivé à un niveau où finalement les Russes ont pas les moyens de s'acheter du bon alcool. Qui les faisait déjà mourir auparavant, mais du coup ils se tuent avec autre chose, hein, donc on est à ce niveau-là. Alors, pour vous donner encore des chiffres, en Russie on consomme sur une année, et alors là c'est pharaonique, 180 millions de litres de produits pharmaceutiques sur un an,
mais pas pour se soigner,
ce qui équivaut à 3 terrains de tennis. Non, pas du tout.
Ah oui,
pas du tout, c'est totalement faux.
Non, mais ça permet de se représenter.
Ça permet de se représenter.
Non.
Et il y a 400 millions de litres par an de produits ménagers, eau de Cologne, antiseptique, lave-vitre, détergent, vinaigre blanc. Qui sont consommés par an.
Enfin.
Ce qui fait un petit total en tout de 1 milliard de produits de substitution à la vodka. Donc c'est un vrai problème. Juste pour terminer cette chronique, les Russes ont quand même essayé de sortir de cet alcoolisme national par le programme des alcooliques anonymes.
Hein,
donc des AA. Sauf que c'est une invention américaine. Donc forcément, ça crée un petit conflit. Et les alcooliques anonymes, ça se base aussi sur une sorte de. D'extériorisation de ces problèmes et donc de s'affirmer dans ces problèmes, ce qui n'est pas du tout le réflexe russe. Exactement. Et finalement le pragmatisme et
c'est pas évident pour un russe,
faut dire bonjour et voilà, et quand t'es bourré c'est pas évident. Donc non, le pragmatisme et le rationalisme du programme des alcooliques anonymes n'a pas du tout pris racine en Russie, puisque les Russes considèrent en fait que ils sont plus dans l'affect,
j'ai pas de problème moi,
ils sont ouverts, ils sont très confiants. Ils sont surtout tournés vers une autorité, donc que ce soit religieux ou une autorité administrative, politique, voilà. Et ils considèrent finalement que l'alcoolisme les rend
plus forts.
Les rend plus forts, les rend poétiques,
bien
en
sûr.
Fait. Et c'est poétiser le pendant inévitable du talent pour eux. Donc c'est-à-dire que un Russe alcoolique suscite la compassion et le respect, et c'est ça qui le tue.
Oui, c'est
et
le
finalement,
coup,
c'est la finalité de cette chronique.
Oh, c'est très beau. Ça finit sur de la poésie.
Bravo. Bah, comme dit Arthur, c'était pas intéressant, c'était très intéressant.
Ah, c'était très très intéressant.
Sur intéressant.
Tu veux nous parler de quoi, Elias?
Ah bah c'est très gentil, mais ça sera Hicham.
Ça va, Elias?
Ça va, Elias? Où est-ce que tu habites? Où sont tes parents?
Merci de pas nous avoir coupé. Vous avez été très respectueux.
Mais parce que c'était intéressant. Autant Camille
pas comme nous avec vous.
Non, Camille, c'était très intéressant, mais on n'a pas arrêté de l'interrompre.
Mais là, t'inquiète, c'est le sujet d'Hicham, on peut se lâcher.
Ah, cool. Ouais. Génial.
Ouh. Là, c'est maintenant, mon gars.
Ah ouais, c'est bien ça.
On est venu là pour toi.
Qu'est-ce que c'est?
Interruption.
Rollez-vous.
Un jour j'irai à New York ou en Amérique, devenir une resta tout comme River Steve.
J'aurai plus d'étoiles sur Hollywood Boulevard
que Joël Robuchon au Michelin ski de Tonka.
Est-ce qu'on peut t'interrompre, Jacques Brel, au générique.
Okay. Hicham, je trouve que tu as beaucoup de style.
Merci beaucoup.
Allez, interruption.
Allez mon chouchou, vas-y.
Merci. Alors, juste avant de commencer, ça sera une petite rubrique assez rapide. On va appeler la rubrique virgule.
Ok.
Parce qu'en fait, mon sujet est assez chiant.
Parce que
il
n'y
a
c'est...
pas grand-chose à dire.
Parce que c'est classe de dire je fais une virgule.
Est-ce que c'est pas moi de se défausser d'une rubrique mal préparée?
Est-ce que ce serait pas une manière de cacher sous le tapis?
Est-ce que j'ai le droit de dire que tu as écrit ta rubrique dans le métro tout à l'heure sur la route?
Non, c'est pas vrai.
Et c'est une longue
route. Je le peaufinais.
Et vous parlez en métro.
Oui, du coup, je vais vous parler de ces petits carrés qui font environ 80 cm.
Les pixels.
Environ, on est sur l'environ en plus de ça.
Ouais.
C'est même pas un truc précis. C'est...
Attends, t'as dit combien?
Putain, mais je vous aimais bien, les gars. 80 cm et c'est pas en inch, je suis sûr.
D'accord.
Ouais, donc c'est des étoiles avec plein de petits logos dessus. Et tout dépend de.
On est encore sur l'extasie là.
Non. Soyons sérieux, s'il te plaît.
Ça peut être...
Non, du coup, on recommence. Hollywood Boulevard, États-Unis, Los Angeles.
Carré,
cinéma,
Californie,
star.
Cinéma, star. Carré de 80 cm.
En fait, on a déjà dit de quoi t'allais parler au début de l'émission.
Ouais, mais.
Tu peux arrêter de l'interrompre, Juan, ou pas? Parce que c'est chiant.
Allez, vas-y, vas-y.
Ça a été créé en 1958. Et depuis, est-ce que vous savez, il y a combien d'étoiles?
Si tard que ça?
178.
235.
300.
Bien
204.
Bien essayé, mais non,
1000.
Pas du tout.
Moi, je dis plus.
Le Moyen-Âge.
On sera...
65.
Non,
982.
Il y en a à peu près un peu plus de 2600 étoiles.
Ah oui.
Et oui.
La vache.
Il y a la mienne là-dedans, je crois. Enfin, dans les 2600, il doit y avoir.
Absolument. Bah, peut-être, ouais. Parce qu'il y a des noms quand même assez divers. Il y a Trump. Mickey.
Je m'attendais pas à être un niquage d'ambiance. Bah, peut-être qu'elle la tienne, il y a Trump.
Juste à chevelure. Ça. Non, j'rigole.
Oh. Oh le bâtard, ça m'aurait pas plu.
Donc, il y a des noms.
Il y a Mickey, comment c'est possible?
Ouais, bah en fait, il y a plein.
Bah, il est venu et.
Comment c'est possible?
Sur le dos de plus?
Bah, c'est une star quand même. Bah, non, c'est pas les mains là, justement.
Ah, oh, pardon.
Les oreilles,
c'est la queue de Mickey.
Bah, vas-y, explique-nous.
Du coup, en fait, ça va de Trump à Mickey. Il y a Neil Armstrong. T'es pas obligé d'être une star du cinéma.
Ah ça, le truc. Trump, oui, non, c'est clair que non.
Ah non. Et il y a même Charles Aznavour, ou comme on pouvait l'appeler au Moyen-Âge, Mec Aznavour.
C'est le fil rouge, Charles Aznavour.
Non, c'est le vinaigre blanc. Je fais rien du tout, toi. Arrête de faire ça, putain.
Et du coup, comme je vous ai dit, c'est un peu un sujet assez chiant parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Du coup, je vais vous donner. Non, mais sérieux, j'ai beau chercher. Non, mais.
Merci, Cham.
Mais parce que j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, tiens, peut-être je vais faire un sujet sur ça.
C'est mon moment préféré dans l'émission, c'est quand on l'invite. Je vois que c'est vrai ce qui se passe avec Cham.
Et là, tu as même 15 minutes de pause, on peut aller prendre l'air et tout. Ça.
Du coup, vu que c'est assez chiant, je vais vous donner. Je m'en fous, je continue. Concentrez-vous, chers auditeurs, parce que ça va être difficile. Donc, je vais vous donner quelques petites anecdotes du Hollywood Walk of Fame.
Moi, je t'écoute, Hicham.
Donc, au début, c'était que des acteurs de cinéma,
ouais.
Mais,
ils ont remarqué
okay. Que... Putain, t'es chiant, là. Mais ils ont remarqué que... Enfin, les musiciens aussi, ils étaient connus. Donc, ils méritaient leur place aussi.
Ah oui.
Viens voir les musiciens,
ouais.
Voir les comédiens.
Très bien.
Bon, c'était pertinent.
Bravo.
On la garde.
C'est Hicham qui a lancé le truc. Ouais. C'est ça, mais c'est vraiment Hicham qui a lancé le truc.
Seule obligation pour avoir son nom dans cette avenue, c'est qu'il fallait vendre, pour les musiciens bien entendu, il fallait vendre 1 million de singles ou avoir 250 000 albums. C'est
et
quand même.
Qui n'a pas. Bon, après.
Oui. Non, justement, c'est quand même énorme.
Ah ouais.
Et il y en a plein qui n'arrivaient pas à ce stade-là et qui méritaient quand même. Leur nom
une
avec
case dédiée,
voilà.
Une case dédiée sur le trottoir.
Et du coup, ils ont créé les
petites
vous
étoiles.
Jamais. Non, les Grammy Awards.
Ah.
Ça vient de là. Eh oui, mon gars.
Et on apprend.
C'est pour les rageux, en fait.
C'est un peu ça, mais.
C'est la médaille en chocolat.
C'est un lot de consolation. Grognon Awards, quoi.
Mais sinon aussi, ça coûte très très cher.
De mettre des mains dans du ciment.
L'étoile ou le Grammy?
D'avoir son étoile.
Mais c'est qui paye?
C'est la personne en soi.
Sérieux,
doit payer 30 000 $.
Alors qu'elle s'est fait suer à être aussi célèbre que ça pour avoir son étoile.
Ouais.
Puis qu'elle va devoir enlever du ciment de ses mains.
Bravo le Startup Nation.
Ouais. Non, mais en fait, ça coûte. Oui, monsieur Arthur.
Oui. Non, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'à chaque fois. J'ai vu que l'étoile de Trump était énormément détruite. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui l'a détruit.
Ouais.
Trump doit repayer.
Ouais.
Ah oui, c'est excellent.
Ouais, mais
non,
c'est
attends,
pas,
alors, pas alors, exactement.
Excuse-moi.
J'y arrive. Du coup, bah, 30 000 $, en fait, ça revient au prix de la création de l'étoile, de la réplique, parce qu'on offre toujours une petite réplique à la star.
Ouais, sur la cheminée, ça fait toujours son petit effet. Mm.
De tous les travaux de voirie, enfin, qu'il faut quand même.
C'est une civile qui
voilà, quoi. Bah
mec,
oui,
le
attends.
Mec de la DDE qu'il faut payer.
Il faut payer les photographes,
les jaunes.
La sécurité, etc., etc. Mais en plus de ça, il faut l'entretien, justement.
Le vinaigre blanc,
à chaque fois
qu'on nettoyer.
À chaque fois que.
C'est important, merci,
que, ouais, que Trump se fait dégrader son truc, bah il faut quand même voilà quoi. Mais en général, vu que c'est des stars de cinéma ou des chanteurs,
ils ont de la thune.
aussi, mais c'est surtout en fait ça fait de la pub à la au studio de cinéma ou
ah oui, c'est un rappel,
au label.
En fait. Ah oui. C'est ça, c'est on rappelle qu'il y a une.
En fait, c'est le studio de cinéma qui paye pour eux.
D'accord.
Voilà. Une autre petite anecdote, je sais que vous vous en réclamez depuis tout à l'heure.
On est friand d'anecdotes.
Vas-y, mon
gars.
Il
n'y a pas eu vraiment de la première étoile. Il y en avait 8 d'un coup.
Oh, ah ouais.
Et enfin quand ça a commencé.
C'est Blanche-Neige et les 7 nains.
Ouais, j'allais dire c'est des personnages
Disney. Excellent.
Alors on a Hatchoum, Grincheux.
Non non, c'était 8 noms qui ont été tirés au hasard sur 1000 candidats.
Non.
Sur Google. Bah au début c'était pas classe, c'était juste
sérieux
qui veut se faire marcher sur son
qui veut se faire piétiner.
Ouais, bah, du SM, moi je suis en fait. Chaud. Qui veut se faire humilier. Bah, voilà, on a pris 8 noms.
Et allez, je vais terminer avec une dernière petite anecdote. Il y a certains acteurs qui ont même refusé d'avoir leur propre nom sur cette avenue. Ouais, quand t'es une star, bah, t'as un planning de star, donc t'es très occupé.
Bien sûr.
Et pour avoir ton étoile, t'es obligé d'être sur place.
Non mais ça va.
Mais oui. C'est-à-dire que tu entends par là que pour avoir ton étoile, tu peux être appelé, genre comme la franc-maçonnerie en fait, on t'appelle bonjour, j'aimerais...
Ça vous
plaît, j'aimerais vous faire votre étoile.
En fait,
déjà la franc-maçonnerie, elle t'appelle jamais.
En fait, c'est ton agent, non, mais... qui est, ton agent ou des fans ou peu importe qui propose.
D'accord.
Et après, t'as des gens qui valident ou pas.
D'accord, c'est pas toi qui réclame, je veux mon étoile.
Tu peux
D'accord.
leur dire, hey, les gars, je suis assez connu, j'ai 30 000 euros dans ma poche.
Je veux mon étoile.
Allez, je veux mon étoile. Et du coup, ouais, vu qu'il y a des stars qui sont trop overbookées, bah, ils ont pas leur propre étoile. Sinon, t'as aussi des personnes qui ont vraiment refusé.
Ah voilà, c'est ça qui m'intéresse. Hicham aborde ce sujet-là.
Les Français veulent savoir.
Mohamed Ali, il a refusé.
Ah, les gants, c'est
pas
chiant,
mal de choses lui. Hein, en
Il a refusé parce que il voulait pas qu'on piétine le nom du prophète. Et là, tous les musulmans disent sallallahu alayhi wa
sallam. Le serpent qui se mord la queue. Ouais, il change de nom, il veut pas qu'on.
Alors que chez nous, les chrétiens, piétiner un nom, c'est garanti d'aller au ciel.
C'est ce que j'allais dire.
Les droites dans la gueule.
J'ai écrit,
ça l'a pas gêné, Mohamed Ali.
Mais il a trouvé un petit compromis et il a accroché sur un mur. Sur le mur de...
dans la rue, c'est-à-dire il a une.
Ouais, il a, lui il est pas par terre, il est sur le mur.
Mais non, j'ai pas vu ça quand j'ai.
Oui, moi je suis spécial.
Bah, écoute,
les gens qui marchent sur les murs peuvent le piétiner.
Wikipédia me l'a dit.
Bravo.
C'est très intéressant.
On y pensera quand on sera de passage aux Amériques.
Aux Amériques.
Et ouais.
L'Amérique.
C'est pour quand ça d'ailleurs. Et bah après ce sujet léger, on va partir sur autre chose de léger, hein, mais bien léger.
Bien léger, ouais.
C'est le voyage qui compte, pas la destination.
Les voyages, on va vous dire, hein. Y'a rien de tel pour voir du pays.
Qu'est-ce qu'il veut le petit gitan? Il veut laver les carreaux de mes lunettes?
Ouais, bah.
C'est TeamCit.
Ouais, alors c'est TeamCit. Et j'ai fait exprès de laisser ce sample. Parce que, bah, figurez-vous que c'est très très difficile de trouver des samples de films en français qui parlent de gitan, manouche, tzigane.
J'imagine,
sans
oui,
que c'est
sorti,
je t'en surtout sans que ce soit vraiment raciste en fait.
Oui, voilà, ouais. Il y avait la bohème quand même.
Ouais, mais c'est pas facile à sampler. J'y ai pensé, il y avait Gitano aussi, mais là j'avais pas la foi.
Mais là, c'est quand même envie d'écouter ça.
Mais non, voilà, bah, je voulais parler de ça en fait parce que, bah, on entend beaucoup parler des Roms, gitans, etc. Et en fait, on sait pas vraiment.
Ça le vent en poupe, hein.
On sait pas vraiment d'où ils viennent, ce qu'ils font. Alors, donc, l'origine des tziganes, en fait, ça vient. Enfin, ils viennent originellement de l'Inde, du nord de l'Inde. En fait, c'est, on a observé un déplacement de population au 10e siècle, donc, comme par hasard.
L'an 1000
là. Ouais.
Est-ce que c'est pas l'an 900, le 10e siècle, au final?
C'est ça, le philo.
Qu'est-ce qu'on fout en ce moment? Enfin, et... tout ça, c'est vraiment des gars. Et en fait, voilà, on sait pas exactement pourquoi ils se déplacent de population, donc peut-être une sécheresse, peut-être qu'ils ont fui nos pressions, d'autres choses, on sait pas exactement, mais on sait qu'ils se sont déplacés. Et pendant les siècles, en fait, bah, ils ont parcouru toute l'Europe.
Vers l'ouest,
ouais, ouest, nord-ouest. Et on en a retrouvé bah, partout en Europe, donc de l'Espagne à la Roumanie, en passant par l'Allemagne, l'Écosse, la France, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est assez. Enfin, j'ai trouvé une citation qui m'a beaucoup plu. C'est
une station.
Station de métro.
Et c'est Gilles Deleuze qui disait: les tziganes n'ont pas d'histoire mais une géographie. Parce que c'est vrai qu'il y a peu de, bah, d'écrits à propos de leur histoire. Ouais, j'aurais pu le dire, hein, après 2-3 heures. Ouais. Ça, je t'en sortais comme ça. Peut-être tout à l'heure, on gardera ta citation. Alors maintenant, comment on sait qu'ils ont fait tout ce trajet en fait, vu qu'il y a peu d'écrits? Ben, c'est en analysant leur langue. Donc leur langue, c'est le romani. Et si on analyse, en fait, on trouve beaucoup de racines communes avec le sanskrit, donc qui est toujours parlé en Inde. Vraiment pas mal de racines. Et on en trouve après un peu avec l'allemand, l'arménien, l'espagnol, donc les pays par où ils sont passés.
Mais ils ont laissé un peu un bout de leur langue à chaque fois. Non, au contraire.
Ils ont récupéré.
Ils ont récupéré à chaque fois. Mais suis un petit peu là, s'il te plaît.
Il n'est pas concentré.
Attends, qui a des langues sur soi? Qu'est-ce qu'il fait avec ça?
Alors, il y a beaucoup. Il y a pas mal de termes en fait qui sont utilisés et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Alors, les manouches, en l'occurrence, c'est le nom qu'on donne aux tziganes en France. Les gitans, c'est en Espagne. Les Sinti ou Santi, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, c'est tout ce qui est région Allemagne, Pologne, Autriche, Italie.
Ouais, on n'emploie pas trop en France.
Comment on dit Santi?
Santi, S-I-N-T-I ou S-I-N-T-E.
Donc je comme un joueur de foot.
Jamais entendu.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Bah parce que c'est plutôt en Allemagne justement.
Les gens parlent allemand ici autour de.
Ya.
Ça veut rien dire en allemand.
Avec une nouvelle suite, un ancien toi, je préfère une nouvelle liste.
Merci Karim.
Waouh.
C'était la façon prétentieuse de dire je parle allemand.
En Finlande et au Pays de Galles, ce sont les Calais et enfin les Yéniches qui eux sont des voyageurs pour le coup, donc ils n'ont pas forcément de pays d'appartenance. Parmi les appellations. Quand
t'es raide à chier, toi, putain, c'est un truc
les
de ouf.
Roms, les Roms.
J'ai rien compris.
Mais du coup, d'où ils ont pris leur nom, ces gens qui ont pas.
Bah ça va.
Je
parlerai rapidement des origines, okay. Sachant que pour parler de ces personnages, de ce peuple-là, si on prend Tigane, Manouche, Bohémien, etc. En fait, ce sont des exonymes, donc c'est des noms qui sont utilisés par les personnes qui sont en dehors du groupe pour nommer le groupe.
Exo.
Alors que Rome, c'est un endonyme, donc c'est un nom qui est utilisé par les personnes qui appartiennent au groupe. Et Rome,
c'est
en fait.
C'est intéressant ce que tu dis.
Ouais.
Bah oui.
Merci pour cette question.
De quoi tu veux nous parler, Elias?
Donc en fait, les Roms entre eux, ils se qualifient de Roms.
Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui apparaît par le plus politiquement correct. C'est assez compliqué.
Ouais, c'est la manière la plus respectueuse finalement de parler des.
C'est assez compliqué parce que justement, alors Rome, ça veut dire homme ou personne en Romanie. Et faut savoir que Tzigane, Romanichel ou d'autres choses, ça peut être assez péjoratif suivant les pays. Donc c'est un sujet assez touchy. Maintenant, donc bon, on a vu qu'ils étaient partis du nord de l'Inde et qu'ils sont partis voyager au gré du vent. Là ça va commencer un espèce d'âge d'or du peuple rom. Vu qu'ils sont sans attache à un pays en particulier, ils vont un peu se créer une histoire. Donc déjà certains vont se donner des titres, donc duc, baron, etc. Enfin, ils se font un petit peu plaisir.
Ils se donnent des titres quand même.
Et ça bat les couilles, ils sont en
style. C'est une grosse histoire. Et une origine. Donc il y en a beaucoup qui se donnent pour origine la petite Égypte. Alors, est-ce que Camille saurait la petite Égypte?
C'est vers l'an 1000, non?
C'est vers le Péloponnèse.
Pas très loin de l'an 1000, ouais.
Vers la petite Venise du Caire.
Alors, c'est vers le Péloponnèse, pardon. Donc, c'est vers la Grèce, globalement.
D'accord, ok.
Tout ça pour ça.
Et aussi, pendant leur itinérance, ils vont beaucoup dire qu'ils effectuent un pèlerinage religieux, ce qui va leur ouvrir beaucoup de portes. Donc notamment, ils vont réussir à décrocher des lettres de papes et de rois qui vont les autoriser à parcourir les territoires. Et surtout qu'à cette époque, en fait, on valorise beaucoup ces actes de foi. Donc ça va être très, très intéressant pour eux pour se déplacer.
Mais c'est un peu des mythos, du coup.
On ne sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Et il y a des rois qui leur ont donné des laissés-passer, comme le roi de Bohême, ce qui a donné le terme bohémien, parce qu'il venait avec une lettre du roi de Bohême, donc on les appelait les bohémiens.
Rien à voir avec la chanson de Queen.
Habile.
Non.
Habile.
Alors, tu parlais des termes tout à l'heure, Herman.
Je me dis ça.
On a dit qu'il venait de Petite Égypte. Et est-ce que vous connaissez un terme plutôt anglais qui pourrait justement qualifier ces personnes?
Little Egyptian.
Gypsies.
Ouais, Gypsies.
Ah,
petit Égypte.
Il a dit Herman, Juan, ok, donc j'avais la réponse.
Egyptians donc Gypsies. Et on retrouve un peu le même terme pas très loin de chez nous, donc Egyptano, Gitano, Gitano, Gitan.
Eh oui, Gitano, la chanson.
Ah là, t'as rien dit, c'est bizarre. Kenji Girac. T'avais le temps.
Qu'on aimerait bien en
pique de Kenji. Pour les bohémiens, comme on l'a dit, c'était parce qu'ils avaient une lettre du roi de Bohème. Au cours de leur voyage,
ça sert à rien quand même. Enfin, juste une lettre, on t'appelle.
Mais c'était, on dit, il y a des mecs qui viennent de Bohémie. On l'appelle des Bohémiens. Du royaume de Bohème plutôt.
La minute culture, vous savez où c'est la Bohème ou pas?
En tout cas, moi oui, vu que j'ai préparé le sujet, mais allez-y.
C'est vers Dunkerque, non?
C'est dans tous les cœurs.
Je sais que c'est difficile d'avoir 20 ans.
Non, c'est la
République. Moi je veux bien parce qu'on fait tous semblant de savoir où c'est.
C'est l'actuelle République tchèque en fait. Prague était la capitale du royaume de Bohème.
Alors maintenant on dit la Tchèque
fleuve alors. C'est pas un truc, comme ça, c'est pas un fleuve du tout. Moi je pense que c'est un fleuve, tu vois, la Bohème.
Un camping municipal.
Pourquoi pas? J'appellerais bien un fleuve comme ça. S'il y a un fleuve à appeler, moi j'appellerais
la Bohème. Se promener à la Bohème.
Ouais, mais voilà. Le long de la Bohème.
Faire du bateau. Alors pendant leur voyage, justement, j'enchaîne. pendant leur voyage, ils ont beaucoup usé de leurs talents artistiques et techniques. Donc c'est des musiciens, des danseurs, des dresseurs, des forgerons. Sachant qu'à l'époque, dresseur, c'était pas forcément montreur d'ours, donc il y en a eu. Mais c'était aussi dresseur qui pouvait servir pour la guerre, pas que pour le cirque en fait. Donc dresseur de chevaux, de.
Ah oui, d'accord.
Donc c'était utile. Et ces talents d'ailleurs ont été valorisés.
Les lefèvres.
Exactement. En France, alors je vais m'axer un petit peu sur l'histoire proche de la France, parce que c'est une histoire assez complexe, parce que comme on dit, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de mouvements de population, beaucoup de mélanges aussi. Donc moi, je vais m'axer plutôt du côté de la France. Et alors, la première trace écrite de l'arrivée en France, c'était au 15e siècle. Et là, c'était un peu la coqueluche du royaume français, parce que c'était des gens qui arrivaient avec des titres, qui avaient des habits différents, des coutumes différentes, des arts nouveaux. Ils jouaient un petit peu avec le côté mystique. Donc il y avait des diseuses de bonne aventure, elles lisaient dans les lignes de la main, etc. Donc ça impressionnait un peu. Et quand ils sont arrivés en région parisienne, ça attirait tout le monde.
Un peu le cirque, quoi.
Ouais, ben en plus il faisait du cirque.
Mais c'est vrai.
Ben oui, non, totalement.
Dans une ville, c'est le cirque, des trucs qu'on connaît pas.
Et on dit même que il y a donc les gens, le mot s'est propagé. Et on dit qu'il y a un duc de Petite Égypte qui serait arrivé à cheval avec toute une troupe. Donc voilà, ça fait venir les gens pour voir ce qui se passait. Au 16e et au 17e siècle, donc la population rome va augmenter en France, notamment parce qu'ils vont entretenir des bons rapports avec les seigneurs et avec les rois. Et en fait, les Roms vont former des compagnies de mercenaires et ils vont proposer leurs services aux seigneurs et rois de France. Donc là, ils sont un peu copains-copains avec eux, donc ça se passe bien avec eux. Et grâce à ça, ils ont réussi à obtenir des protections, des droits de passage de plusieurs rois, donc notamment François Ier, Henri II, Henri IV. Est-ce que ça te parle, sinon, Camille ?
Ça me parle, oui.
En mille.
Ouais, non, c'est moi plus tard, je crois que c'est 1000, bah non, c'est 16-17ème, donc c'est 1500, 1600.
Ah, il y a 1000 dedans.
Ouh. Ouais, il faut savoir qu'il y avait aussi un truc qui jouait, c'était un système de parrainage, donc pour une allégeance...
Ah, comme sur Boursorama.
Bah, c'est pas loin, pour une allégeance faite à un seigneur, un enfant parrainé, et c'est véridique. Donc il y a des seigneurs français qui parrainaient un enfant, je suis parce qu'il y a un chef de troupe rome qui lui prêtait allégeance. Donc il y a des gens qui les quittent bien parce que c'est quand même cool, ils aident pendant les batailles et puis ils sont rigolos. Mais il y en a d'autres qui se méfient.
Ils sont rigolos.
Ils étaient certainement rigolos. Enfin, ils étaient
pour des rondades. Voilà.
Donc il y en a qui se méfient de ces personnes et notamment, comme disait Karim, de l'authenticité des lettres pontificales qu'ils recevaient.
J'ai pas dit ça en ces termes, mais.
Dont je doute de l'authenticité de tes lettres pontificales.
Je dis genre, c'est des mythos en fait. Mais...
Je traduis.
Une fois qu'on se comprend.
Voilà, j'étais sûr que t'avais ça en tête. Donc ils doutent de ça et ils vont les chasser de leur territoire, mais bon, à un bon gros coup de pied au cul. Et là, on vient de finir l'âge d'or et là, ça va être le début de la persécution. Donc on commence à dénigrer les populations roms.
Ça tourne mal.
Ouais, parce que.
Ivre.
On a bien dit qu'en temps de guerre.
Ivre, ils font un podcast.
Donc ouais, on a bien vu qu'en temps de guerre ils étaient vachement utiles parce qu'ils fournissaient des troupes. Par contre, en temps de paix, ça fait chier. Et en plus, ils faisaient copain-copain avec les seigneurs et ils se disaient nobles. Et les seigneurs, ça lui faisait un petit peu chier qu'il y ait des mecs qui viennent leur taper sur l'épaule et tout. Et en plus, le pouvoir change. Fin 17ème, c'est Camille.
Fin Charles 17ème,
ouais, l'an 1000.
1660, 1670.
Ah oui, c'est pas fin, mais c'est Louis XIV, oui.
Fin 17ème, 1670, ça va.
Mais
donc, c'est Louis XIV. Réviser, ça va pas traîner. Hein.
Et donc, Louis XIV, il va ordonner une purge.
C'est mi-17ème, 60. Bref, vas-y.
Allez, passons au pire.
Donc, il va ordonner une purge du royaume de toute population en Rome. Donc, il va les envoyer massivement aux galères. Pour rappel, les galères, c'est des travaux forcés, autrement dit, de l'esclavage.
Donc, il y a une persécution qui se passe. Il annonce que peut
totalement.
Chasser.
Non seulement ils sont chassés, mais en plus réduits à l'esclavage.
D'accord.
Et cette réduction à l'état d'esclavage, en fait, on va la retrouver dans le reste de l'Europe, et notamment en Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'ils sont installés dans des pays qui se sont après fait coloniser. Sauf que quand il s'agit, comme toujours, quand c'est un peu le bisbille quelque part, on accuse les derniers arrivés, qui sont les Roms à l'époque. Donc ils se sont un peu fait éclater leur race, les pauvres. Et donc on va passer à la persécution.
Au sens propre du terme
Leur peuple, plutôt.
Non, au sens figuré.
Voilà, donc ils sont un peu fait éclater. Et là, on va commencer à arriver sur la partie pas drôle.
Ah bon ?
On a tous hâte.
C'était bien okay, drôle.
Ça tombe bien, j'avais plus d'abdos là.
Voilà, donc on a... Voilà, je disais que je parlais un petit peu de la France, mais forcément, fin 19e, début 20e, on va commencer à parler de la France, mais pas que. Dès la fin du 19e siècle, la police allemande, recense les tziganes dans le. Alors, je vais prononcer difficilement, mais le Tziganer Book.
Le livre de la jungle des tziganes.
Ouais, en fait, ils vont recenser tous les tziganes sur le territoire. Donc, ça va être un peu le début du zbeul.
Ouais, ça pue, ça me rappelle quelque chose.
Ouais, et quand on regarde, en France, c'est pas ouf non plus parce qu'en 1912, donc 3ème République,
ils ont copié sur leur bouquin, donc c'était pas top.
Ouais, mais en fait, on prend la Troisième République, il y a une loi qui sort donc en 1912 pour ficher les nomades, et notamment avec un truc bien rigolo qui s'appelle le carnet anthropométrique.
Et c'est là que ça a commencé d'ailleurs la recherche sur la criminalité, enfin le registre de criminalité, ouais. etc.
Bah, ce qui est rigolo, c'est
que prendre des empreintes, des mesures, etc. etc.
Voilà, c'est exactement
ça.
Ça
prend la même peu, quoi. Voilà.
En gros,
le carnet. Fait mon intéressant sur la chronique d'Ilias. Bonne soirée.
Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, le carnet anthropométrique, tu me dis si je dis des bêtises, mais.
Tu dis des bêtises.
Initialement, c'était plutôt pour les criminels, et là, justement, on va ficher des innocents.
C'est ça, la jonction qui a fait que ça a dérapé.
Ouais, qui fait que ça craint un petit peu.
On a utilisé une méthode sur des gens qui n'avaient pas commis de crime.
Ouais, et carnet anthropométrique, en gros, c'est quoi ? C'est comme une carte d'identité, mais sachant que ces gens vont être déjà une carte d'identité, donc c'est en plus. Et donc il va y avoir, bah, en plus des coordonnées basiques de la personne, il va y avoir des données anthropométriques. En fait, l'anthropométrie, c'est un peu l'ancêtre de la biométrie. Donc on va prendre des mesures des avant-bras, de la taille des oreilles, de la taille du cou, etc. Donc on va vraiment les ficher. Oui, après, il peut y avoir des détails.
Des signes distinctifs, peut-être aussi, des tatouages, ouais, des trucs comme ça.
Exactement. Exactement, et c'est un peu flippant, et en plus ils doivent marquer tous leurs déplacements, donc à chaque fois qu'ils arrivent dans une ville ou qu'ils repartent, etc., donc ils doivent aller pointer et marquer ce qui se passe. Là, ce qui est un petit peu horrible, c'est que c'est des personnes
tu rigoles
qui,
quand tu dis ça.
Non, désolé, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a persuadé.
Alors c'est horrible.
Non, mais en fait c'est assez horrible parce que on a bien vu que l'histoire commençait au 15e siècle, en tout cas pour les Roms en France, et là 1912 ils sont fichés un petit peu comme des criminels auparavant, sauf que c'est des gens qui sont français pour en tout cas une grande partie depuis plusieurs siècles en fait. Donc c'est des français qui avaient un travail, qui payaient des impôts, qui étaient intégrés, sachant comme j'ai pas dit tout à l'heure, mais quand ils sont fait chasser, ils sont pas disparus, ils sont réfugiés dans les campagnes, mais ils avaient une vie tout à fait normale, enfin relativement normale, donc ils avaient un travail, ils faisaient des choses,
c'est juste qu'ils étaient nomades du coup, ça permettait de les repérer comme
voilà, c'est ça, et il y avait une chasse contre justement tous ces nomades, donc pas forcément que des Roms et Tiganes, parce que tous ne sont pas nomades, et la plupart ne le sont pas d'ailleurs.
On n'aime pas ça, les gens qui font pas tout pareil que comme nous, hein.
Alors, oui. Et en plus, en fait, on les soupçonnait d'être des espions.
Eh ben voyons.
Donc on s'est dit, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Donc ça se trouve, c'est des...
C'est forcément des vilains.
Ouais, ça se trouve, c'est des méchants. Donc des potentiels espions, ok, mais tout de même citoyens. C'est-à-dire qu'en 1912, on les fiche comme des bâtards. Par contre, en 14, hop, à la guerre les cocos. Ouais.
Des espions qui votent.
Ouais. Et donc ils ont quand même participé à l'effort de guerre, c'est-à-dire qu'on les a traités un peu comme des
l'effort de guerre, ça a toujours fait marrer comme
ouais, c'est l'effort de guerre, c'est porter, enfin l'effort c'est porter un carton aussi. Quoi, c'est pas se faire tirer dessus, on est d'accord. Donc là, bon, on a vu en 14, ils ont quand même aidé tant bien que mal à défendre le pays. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, attention, on continue dans le lol. On va repartir du côté allemand.
On va
repartir du côté allemand parce que
Les
Allemands, ils sont bien embêtés parce que, comme on a dit, les Roms, ils viennent du nord de l'Inde, mais en fait, donc ils ont des origines indo-ariennes, donc ils sont ariens globalement, les Roms.
Oh là là.
Et ça fait bien chier les Allemands parce qu'ils disent ils sont ariens, donc à race supérieure selon leurs croyances, donc ça fait bien chier parce qu'on les aime pas trop.
Ça correspond à quoi, ariens, du coup, parce qu'ils sont indo-ariens.
Ça correspond à rien. Excellent. Bravo, on était deux sur cette vanne.
C'était une vraie question.
C'est un combo. Il me semble que c'est la région, et en fait, c'est issu de ce que j'ai trouvé. L'origine est un peu obscure, mais c'est par rapport à des castes indiennes potentiellement, de ce que j'ai trouvé.
Donc ça vient de là, ce mot là.
Ouais. En fait, originaire de caste, et il y a une notion de justement caste supérieure.
Comme la Slavinska.
Je ne sais pas ce que c'est.
Une vodka locale.
Ah, c'est une vodka caste supérieure, pardon.
C'est le nom de la croix gammée inversée.
La Slavinska.
Bolos.
Tu connais rien en Asie, c'est fou.
Donc les Allemands sont bien embêtés, mais ils ont trouvé une solution, c'est simple, ils se sont dit, ok, ils sont rien, mais ça fait des années qu'ils sont en train de se métisser avec tout le monde, hop, on va dire que c'est des connards, donc on va les persécuter. Hop, c'est parti.
Ça les arrangeait bien.
Voilà, ce qui fait que pendant l'occupation, ils ont demandé à la France de gérer la question aux Roms, mais en autonomie. Parce que, ils leur ont dit, il y a des Roms chez vous, on veut que vous gériez ça, mais vous vous démerdez. Donc la France a
comme
créé...
le Royaume-Uni.
Je ne savais pas.
Ah bah si, il y a des immigrants chez vous.
Oui, voilà.
Et non, on se barre.
C'est ça.
Donc
ils ont créé des camps d'internement. Ils ont créé des camps d'internement où ils ont enfermé les Roms. Les Roms, comme j'ai dit tout à l'heure, qui étaient pour une bonne partie, tout du moins, français depuis longtemps. Ils étaient enfermés en famille. Et le petit détail un petit peu glauque, c'est que ils se sont rendus compte au final qu'il fallait pas mettre tant de gardes que ça pour ces camps d'internement. Parce que déjà pour fuir en famille, c'est plus difficile. Et une fois que les mecs, il y a plusieurs écrits.
Il y a toutes les affaires.
Il y a plusieurs écrits et retours qui disent qu'en fait, quand certains réussissaient à s'enfuir, mais en fait, il y a les populations locales qui les ramenaient au camp d'internement. Donc c'est en mode ultra glaucos. Je vois que ça ne vous touche pas du tout.
Okay. Oui,
moi ça m'a chamboulé cette histoire, mais très bien.
Ça veut dire qu'ils pouvaient pas se fondre dans une.
C'est-à-dire que même la
population.
Voilà, même la population les ramenait directement au camp. Donc c'était l'enfer. Ils étaient abandonnés tous.
Est-ce qu'ils étaient catalogués? et coupable à chaque fois, mis à l'écart, fiché et même montré du doigt.
Ça c'était réservé aux Arabes, je crois.
Pas une chanson.
Non,
c'était
mais
une chanson.
Ah ben je ne connais pas.
Charles Aznavour.
Mais donc là, bon, jusque là, on les internait, mais on les laissait entre-humains relativement tranquilles. Bon, ils crevaient quand même, enfin, ils crevaient quand même de faim, mais on les poussait pas à la mort non plus. Par contre, en fin 1942, il y a Himmler qui décrète par le Auschwitz-Erlass l'élimination des Roms sur les territoires de la Grande-Allemagne, ouais, ce qui touche le Nord et le Pas-de-Calais. Et donc, il y a les Roms du Nord et du Pas-de-Calais qui sont déportés à Auschwitz en 1944, et il faudra attendre 1946 pour que les derniers soient libérés.
Déjà qu'ils vont en Pas-de-Calais.
C'est-à-dire que la guerre avait
plus de ça
terminé, et il a fallu attendre 46 pour
ouais. T'imagines, la guerre était finie depuis un an.
Ça va, il n'y a plus personne.
C'est abominable.
C'était vraiment ça.
Il faut partir, hein.
Donc je vais arrêter maintenant le côté badant.
Ouais,
et,
s'il te plaît,
oui.
Rentre chez moi, moi, ça va terminer. Hein.
Comme vous avez vu, j'ai passé pas mal de côté sur les nomades, etc. Parce qu'en fait, tous les Roms et Tziganes ne sont pas forcément nomades. Par rapport à la guerre, du côté, on va dire, vraiment moderne, à la guerre, pardon, pouloulou. par rapport à la guerre, côté moderne, il a fallu attendre 2016, donc octobre 2016, pour que François Hollande reconnaisse la responsabilité de la France dans l'internement des Roms.
Ah bon ?
Donc c'est tout récent.
Ah oui ?
Et il a inauguré un mémorial aux victimes, voilà, le petit truc sympa.
Voilà, ça lui a pris deux jours. Bon.
Et il a fallu attendre 2016 aussi, fin 2016, pour qu'il y ait en gros une loi qui abroge, enfin qui abroge une loi de fin de 69 justement, qui mettait fin au carnet de circulation, qui était la suite du carnet anthropométrique, et ce qui en gros qui défendait l'égalité entre citoyens.
Et du coup, on reconnaît les Roms en tant que Roms, enfin c'est
Administrativement.
Ouais.
Alors administrativement, il y a quelque chose qui a été fait pour essayer de les différencier. Il y a un terme
c'est
qui
des zones d'air de gens du voyage.
Voilà, c'est ça. Les gens du voyage, c'est un terme administratif français qui a été créé par la France.
Et les Roms, voilà.
Créé par Rihanna.
Roms, ping, pam, pong. Roms, ping, pam, pong. Donc voilà, les gens du voyage, par exemple, c'est purement un terme administratif, ça n'a aucune histoire, mis à part le fait qu'on a voulu cataloguer, pardon.
Ah, tu vois, on en revient à ce que je disais, comme quoi je dis pas que des bêtises.
Un catalogue.
Non, mais ça renvoie à aucune réalité historique, quoi. C'est un terme purement administratif.
Parce que justement, on dit qu'il y a. Alors les chiffres, c'est assez compliqué, comme je vous le disais, mais on considère qu'en France, il y a entre 5 et 20% de nomades chez les Roms.
Oui,
c'est une grosse fourchette, mais c'est pas non plus la majorité. Voilà, globalement, les gens du voyage, il y en a qui sont itinérants par rapport à leur travail, mais il y en a une bonne partie qui sont sédentaires ou semi-sédentaires. Niveau art et culture, on peut quand même trouver un fort apport des Roms dans la musique notamment. Donc Karim, tu nous en parlais, enfin on en parlait.
Oui, c'est marrant parce qu'à côté de chez moi, il y a des containers aménagés dans lesquels ils ont mis des Roms, et pour leur faire plaisir, le petit square, ils l'ont renommé. Le square Django Reinhardt.
Tu habites où?
Alors, je parlais plutôt du jazz manouche, mais.
Django Reinhardt.
Là, on en plein temps. Après.
Mais ouais, effectivement, le jazz manouche, c'est la rencontre entre la musique des Roms et des manouches et du jazz, donc porté par Django Reinhardt.
Ah, c'est super intéressant. En plus, il y a rien d'écrit en fait. C'est que dans l'imitation et dans l'écoute. Si tu étudies la musique de Django Reinhardt, ça n'a pas grand sens. Par contre, à l'oreille, c'est très plaisant.
Et c'était fort. Et aussi, y a aussi une influence, notamment dans le monde forain et circassien, parce qu'ils ont toute une culture depuis des siècles et des siècles. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Roms parmi les forains, mais pas exclusivement. Et enfin, pour finir, des petits chiffres. Il y aurait, alors pareil, c'est compliqué, mais environ 250 000 Roms en France. Et d'après le New York Times, il y aurait 11 millions de Roms dans le monde.
Voilà. D'accord, même. Ok.
Wow.
Eh bien, c'était la stat.
Une belle équipe.
Merci Ilias pour ces fun facts.
C'était très intéressant.
Désolé, c'était pas léger.
Comment tu vas, Ilias ?
De quoi tu veux nous parler ?
Ouais, du coup c'est à moi, hein, c'est ça ?
Bah il va bien falloir. Hein.
Ouais.
Allez.
Allez.
Yeah, yeah, yeah.
Alors moi je vais vous parler d'un duo musical composé de deux personnes dont les prénoms sont Paul et Art. Est-ce que vous avez deviné qui c'était ?
Les Rolling Stones.
Non, Simon et Garfunkel.
1, 2, 3, soleil. Hein, merde.
Donc moi quand j'ai entendu parler de Simon et Garfunkel, je me suis dit ouais, putain, c'est un groupe hyper connu, gros succès, grand classique, les mecs ils devaient être hyper potes.
Bah non. Ils étaient niqués de ouf.
Non. En fait non.
Pardon.
Donc, pas, vous pas...
C'était une SRL.
Ils ont pivoté. Ils sont connus en 53 dans le Queens. Et leur premier groupe, s'appelait comme un duo de dessins animés connus.
C'est pas Boulet-Bill,
Tom et Jerry, je te jure, c'est vrai.
Bravo.
Et ils ont fait Hey School Girl, qui est sorti en 1957.
Ça sonne très Beach Boys.
Alors,
c'est hyper cool.
Pour ceux que ça intéresse vraiment, c'est plus dans le style des Everly Brothers.
Ok, ça, c'est ce que je voulais dire.
Est-ce qu'on peut qualifier ça de musique de surfeur? Ou ça n'est pas encore?
Ça ressemble à du surf rock.
C'est pas exactement ça, mais écoute, je ferai des recherches et je t'en reparlerai. Donc après ce petit succès, ils se sont dit « Hey, cool, ça pète et tout », et ils essayent de continuer de faire marcher le truc. Mais non, plus rien. Donc chacun reprend la fac de son côté. Ouais, ok, d'accord. Chacun reprend la fac de son côté. Et en 63, ils se retrouvent, et à ce moment-là, ils kiffent tous les deux la folk à balle. Et en 64, ils sortent un album qui s'appelle « Wednesday Morning 3 AM ». Gros bide. 3000 ventes. Simon, il est tellement déçu qui se barre en Angleterre et il se lance dans sa carrière solo. Mais pourtant, cet album, vous le connaissez, parce que dedans, il y a Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left.
Alors, c'était plus déprimant que les rock.
Du coup, vu qu'on connaît tous cette musique et qu'elle était sur l'album, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, il y a eu ce gros bide, mais le producteur de l'album, Tom Wilson, il apprend que cette chanson, Sound of Silence, elle est diffusée sur des petites radios sur la côte est aux États-Unis. Donc à ce moment-là, il vient de finir l'enregistrement de Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
C'est proche de Charles Aznavour, hein, qu'on y pense.
Donc c'est dans une approche beaucoup plus électrique.
Rolling Stone.
Donc ce qui fait ce cher Tom Wilson, vu qu'il a les droits sur la musique et en tant que producteur, il décide de faire réenregistrer la chanson Sound of Silence en y ajoutant de la guitare électrique par-dessus. Bon, alors du coup, on est en 1960, hein, donc quand je vous dis guitare électrique, pensez pas à Metallica. Donc je vais vous repasser la version originale de Sound of Silence. In restless dreams I walked
alone. Ah ouais, acoustique, hippie.
Et Tom Wilson, il engage des musiciens. Alors même sur Wikipédia, ils sont pas sûrs de qui est qui et qui fait quoi, machin. Mais la version électrique, ça donne ça. In restless dreams
I walked alone. Oh yes.
Rock and roll.
Excellent.
Donc ce petit fripon de Tom Wilson... Il n'avait pas prévenu Simon & Garfunkel qu'il avait réenregistré la chanson et redistribué le truc. Et à un moment, il y a Simon, il est au Danemark, et il regarde le journal et voit que sa chanson, elle est classée au top 100 des charts américains, le Billboard.
Non. Pas mal, tout de même.
Et donc il appelle Garfunkel. Garfunkel, il dit « Eh ouais, mon gars, ça y est, on est connu, on passe à la radio, on est dans le top des charts. » Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils reforment le groupe.
Bah oui.
Parce que quand même, c'est génial.
Oh,
Fête Cotillon, Simon revient aux US.
Fête Cotillon.
Ah oui, c'est sur ma fiche, j'ai écrit Fête et Cotillon.
C'est sur sur sa fiche.
Il a vraiment écrit clairement sur sa fiche Fête et Cotillon.
C'est bien écrit en plus.
Donc Simon, il entend cette nouvelle version, il la déteste, hein, mais business is business, et du coup il l'assume telle qu'elle est. Alors, vous avez dit tout à l'heure, en entendant les premières paroles de Sound of Silence, qui commence par « Hello darkness, my old friend », vos magnifiques accents anglais. En français, dans le texte, « Bonjour pénombre, ma vieille amie ». Tout le monde pense que c'est un truc hyper badant, le mec est dépressif, il est dans le noir et tout, oh là là.
En fait, pas du tout, ça parle des Roms.
En fait, pas du tout. C'est juste que Simon, il aimait bien jouer de la guitare dans sa salle de bain, parce qu'avec le carrelage, ça avait une bonne réverb.
Il y avait un néon qui faisait chier.
Il suffit à dire pénombre. Voilà,
il allumait pas la lumière.
Il avait un chat qui s'appelait Pénombre.
Putain,
ça me fait penser à la truc de Fuzzati qui dit quand je serai grand, j'aurai un chat et je l'appellerai ma chérie les enfants.
Oui,
comme ça, quand je rentre chez moi, je pourrais dire ma chérie les enfants, je suis rentré.
Ouais, et très bonne.
Du coup, alors ils réenregistrent un album qu'ils vont appeler Sound of Silence avec la version électrique qu'ils ont même pas fait eux-mêmes et qu'ils détestent. Et Paul Simon, à l'époque en Angleterre, il avait fait des petites chansons en solo, il les intègre à l'album. Gros succès, numéro 1 du Billboard, lourd. Ils prennent le temps,
lourd.
Ils enregistrent un autre album qui s'appelle Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, oh, un truc comme ça. Celui-là, je le connais pas,
typique
mais
de Paul et Simon.
Il a eu un gros succès aussi, typique. Numéro 4 du top 100.
Un gros succès numéro 4 en partant de premier. Pas, même pas sur le podium.
Pas sur le podium, tu
à moins qu'il y ait un podium à 4 marches.
Et donc, sur ce succès, ils essayent de réécrire un album, mais ils se heurtent au blocage de l'écrivain. Ils n'y arrivent pas, ça marche pas et tout. Et donc, il y a le directeur de Columbia qui les convoque et qui leur dit « Bon, les gars, ça va pas se passer comme ça, là, maintenant vous allez me sortir un truc. » Pas marché. Et pendant ce temps-là, il y a un mec, il est fan de Simon & Garfunkel et il est réalisateur. Il s'appelle Michael Nichols et il tourne un film.
Mike Nichols.
Il tourne un film qui s'appelle The Graduate, en français Le Lauréat.
Le Lauréat,
ah oui,
avec Dustin Hoffman.
Il veut mettre des chansons de Simon & Garfunkel dans le film Le Lauréat et il leur en demande de composer des nouvelles. Et là, boum!
God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Quelle ambiance festive!
Et donc ils sortent l'album de la BO du film en janvier 68 et cet album arrive premier au Billboard.
Allez, là je dis oui, là je dis oui mon gars, là t'y arrivé.
Là, ok.
Donc ça a lancé la carrière de Garfunkel.
De Staline, oui.
Non, ils avaient déjà
et
connu
celle de Dustin Hoffman aussi.
Est-ce qu'on a des infos sur cette chère Madame Robinson?
Elle va et beaucoup mieux depuis qu'elle a été pécho par le lauréat.
Depuis que Jésus l'aime plus que ce qu'elle croit.
C'est vrai.
Donc je reprends. Il y avait l'album The Graduate, la BO du film The Graduate qui sort, numéro 1. Et du coup, ils en profitent pour réussir de finir d'enregistrer l'album qu'ils avaient, sur lequel ils étaient bloqués, qui s'appelle Bookends. Et il arrive premier et il remplace l'album The Graduate qui était premier à ce moment-là.
Allez,
auto-doublé les gars.
Donc là les mecs,
c'est un peu vénère ou pas quand même. Parce que genre ah putain, notre album d'avant, oh, non. Il est deuxième. Ah bah non, mais on est con.
Genre, oh merde,
le temps à se rendre compte que
ça va.
Donc là, c'est grosse superstar.
Loft Party.
Ils repréparent leur nouvel album, mais ils sont tous les deux engagés pour jouer dans un film qui s'appelle Catch 22. Et c'est Garfunkel qui a le rôle principal. Mais au final, Simon, il est viré.
Oh.
Et donc Garfunkel se retrouve tout seul sur le film. Et Simon, il se retrouve tout seul à bosser sur l'album parce pendant 8 mois. Et il est en grand bad.
C'était deux personnes finalement. Les mecs leur ont dit ouais, venez. Ah putain, vous êtes deux en fait. Ah merde, bah non.
Bah comme ce soir, Herman et Arthur, vous pouvez
dire. Ah, Carole. Bah ouais.
Ah bah désolé, m'amène. Donc il y a Simon qui bosse pendant 8 mois sur l'album. Gros bad pour lui. Au retour de Garfunkel à la fin du tournage du film, ils sont invités pour faire Woodstock. Ils disent non.
Non.
Ils y vont pas.
Il y a trop de monde, j'ai peur.
Ils ont raison, il n'y avait pas assez de
toilettes. Agoraphobe. Ambiance de merde en plus, il paraît.
Oui. Si, ils étaient tous défoncés, mais il n'y avait pas assez de toilettes et c'était plein de boue.
Ouais.
Je vous invite à regarder.
Il faisait mauvais temps.
À regarder le reportage de Scorsese là-dessus, c'est terrifiant. Pire que les Solidays. Ok, vas-y.
Ils se concentrent sur l'écriture de leur album qui sort en 1970. Bridge of a Troubled Water.
Bridge.
L'album arrive numéro 1 dans 10 pays quand même, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.
C'est
l'album le plus vendu des années 70, 71, 72, et à ce moment-là, ça devient l'album le plus vendu de tous les temps.
Il y avait quand même une Beatles, tout ça.
Et puis surtout que tout le monde s'en fout de Simon & Garfunkel.
Avec deux mecs à col roulé, une guitare
et compagnie.
Ils ont tout pété. Ils ont remporté 5 Grammy Awards en 71, dont celui du meilleur album.
Rien sur la Walk of Fame.
Je sais pas. Oui, et cet album, il est 51ème au classement des 500 plus grands albums de tous les temps.
500,
c'est l'album
c'est
que je connais le mieux et je vais vous en passer un petit extrait. Si, quand
on a 20 ans, on a tout le temps d'être Jodassin.
Mais enfin, que se passe-t-il? Ça ne ressemble pas beaucoup à Simon et Garfunkel.
Non mais Juan, tu t'es trompé. T'as passé la version nulle de Joe Dassin. Est-ce que
je
peux bien
nous mettre
désolé
d'avoir
la vraie, s'il te plaît.
Mis par erreur ce morceau.
Actor Studio.
Donc là, les mecs, ils viennent de tout péter. Meilleur album de tous les temps, plus de ventes au monde, 70, 71, 72.
Il devient juste une colo, sérieux.
Mais vu que c'était tellement la merde d'enregistrer cet album, ils décident de faire une pause pendant 2 ans. Et ils ne reprendront plus jamais. C'est le dernier album qu'ils ont enregistré ensemble. Ils ont fait des concerts de temps en temps, genre le concert à Central Park en 81.
Avec Shakira. Ouais.
Leur première partie d'ailleurs.
Il y avait plus de 500 000 personnes à ce concert et à ce moment-là, c'était le plus grand concert de tous les temps qui avait été effectué.
500 000 personnes
à Central Park.
Autant de morts en Russie.
Bah, imagine tous les morts de Russie qui font. Mais
to you. Demi-million de personnes dans un concert. Mais tu dis que c'est une plus grosse affluence de concerts.
En 81, c'était le plus grand concert de tous les temps en ce moment-là.
Je pense en termes de.
Non, après, il y a eu des trucs au Mexique et tout.
D'accord, ok.
Puis c'était unplugged en plus, donc c'était un peu chiant.
Éclairer à la bougie,
mais ils se sont cassés la voix, c'était l'enfer.
C'est pas au top.
Donc, moi, ce que je trouve super marrant dans ce groupe, c'est que c'est le contraste.
C'est qui s'appelle Simon et Garfunkel déjà.
Le contraste entre leur musique toute douce, toute gentille, leur bonne tête, le succès qu'ils ont eu. Mais à chaque fois, c'était soit dans la douleur, soit au hasard. Genre, ça marchait pas, c'est le producteur qui a refait un truc. Ou alors, ils ont été appelés sur un film. Enfin, bref. Et Simon, il a continué à faire de la musique en solo. Il a fait Me and Julio Down the Schoolyard. Je sais pas si vous connaissez avec le petit soufflement là. Je le fais très très bien.
Très très bien.
Et pour ceux que ça intéresse, la musique d'intro, c'est une reprise de The Lemonheads de Mrs. Robinson et c'est celle qui a été utilisée dans le film Le Loup de Wall Street.
Ah.
Et c'est tout pour moi. Voilà, merci. Bisous. Oh.
Eh bien, c'était bien bien chouette, j'en ai appris plus sur ce groupe, j'ai beaucoup écouté, mais je ne savais pas, pas tout ça.
Est-ce que tu savais que c'était la merde à ce point-là?
Est-ce que non, je ne pensais pas, je pensais qu'ils étaient heureux en fait. Enfin,
ouais, moi aussi.
Mais en gros, le plus beau des hasards peut faire ta réussite, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient de réussir.
Finalement.
Peut-être qu'on sera
ils ont même réussi sur un truc qu'on a refait pour eux.
Enfin,
ils n'avaient pas choisi.
C'est trop bizarre.
Ah, vous l'avez refait? On n'aime pas du tout, ok, on y va.
Peut-être qu'un jour un producteur refera notre podcast avec une guitare électrique et qu'on aura du succès.
Tout le mal.
Ou un film avec Dustin Hoffman.
J'ai hâte. Et bah du coup malheureusement ça va sonner la fin de cet épisode.
Non.
On n'est pas tout à fait d'accord.
Ouais. On a pas traité un sujet.
Vinaigre.
En profondeur.
Enfin, en fait il a été abordé
en fait, voilà.
Dans le podcast.
Ouais. En fait il a été abordé durant tout notre chronique. Mais on tient à remercier Juan pour sa sublime.
Ah oui elle est avec, magnifique.
C'est bon tu peux arrêter là.
Ouais ça fait des à-coups.
Et toi Elias tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
On peut recommencer depuis le début.
Allez, bonjour et bienvenue, pardon.
Non, vous étiez en train de dire que j'étais sublime.
Exactement, en tout cas que la chronique, le sujet que t'as abordé était génial. Donc les pouvoirs quasi magiques, finalement, tu l'as dit.
Du vinaigre blanc.
Du vinaigre blanc.
Je vais passer à côté parce que dans vinaigre blanc, il y a nègre blanc, c'est déjà un peu...
Je ne suis pas d'accord, monsieur Pujadas.
Vie au toit nègre blanc, tu vois, il y a déjà une antinomie comme ça qui est intéressante que vous n'avez pas exploré.
Il est vrai.
Et ça, c'est un
mais
scandale.
On va pas parler de ça, tu vois.
Mais taisez-vous.
On va pas parler de ça.
Non,
clairement. Non, en revanche, j'ai dit, on n'a pas peur de dire les choses, on va jusqu'au fond des sujets.
C'est ce qui me fait peur, vous êtes un peu la lucette.
Exactement, on casse les codes. Salut, je viens, je tape sur mon micro tellement je casse les codes.
Répondez, s'il vous plaît.
Donc, en fait, on va aborder.
Répondez, monsieur Macron.
On va aborder les choses que ne fait pas le vinaigre blanc.
Mais n'en parlez pas.
Là, ça fait moi les malins, on est tout de suite un peu perdu.
Vous prenez que si on fait du journalisme sérieux, messieurs, voilà. Alors je vous écoute, je m'apprête à m'esclaffer d'ailleurs le public.
Mais il n'y aura pas un droit de réponse, monsieur, ça se terminera après. Hein,
Monsieur Pujadas, n'hésitez pas à nous interrompre.
Des mois qu'on essaye d'avoir votre dire quoi.
Monsieur Langlais, calmez-vous avec vos cheveux, vous n'avez pas.
Alors qu'est-ce que fait pas le vinaigre?
Alors ce n'est pas un alcool de substitution. Substitution, voilà.
Contrairement
à d'autres alcools,
on a bu tout à l'heure.
Prononcer ce mot. De mauvaise manière. Il ne change pas une ampoule non plus.
Oui.
Il y aura toujours un acte manuel.
Nécessaire. Préalable.
C'est pas parce que vous achetez du vinaigre blanc que toutes les ampoules vont tomber.
Jusque-là, on est dans du populisme, on est d'accord. Hein.
On est d'accord là-dessus. Il ne visse aucune quincaillerie dans vos boiseries. Ah, ça, c'est une visseuse.
Tu peux pas monter un meuble IKEA avec du vinaigre blanc?
Absolument
pas. Possible.
C'est impossible.
Alors moi j'ai
utilisé
le vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude pour retirer la colle sur mon meuble.
Tu es joueur, mais c'est
ça,
bien.
C'est bien.
Et mais alors un truc qui ne... ça peut le faire du coup le vinaigre blanc avec le bicarbonate de soude, ils sont assez potes.
Belle compilation.
Je trouve partie 4.
Vieille ref.
Je l'avais.
Cette référence n'est pas à la personne. Mais vas-y.
Si, ça me parle totalement.
Et en revanche, le vinaigre blanc ne vous conduit pas à l'aéroport. Faudra vous démerder tout seul. Hein.
Ouais, là, c'est plutôt un Uber.
Un transport en commun, exactement.
Ou un ami.
Il y a des prix capés par Uber, par VTC. Il suffit de s'organiser un petit peu et on y va.
Dans un cocktail, c'est complètement inutile.
Mais ça peut fonctionner.
Non, ça fonctionne.
Tu sers le cocktail à ta belle-mère.
Contre-vérité.
Alors, tu avais dit.
Fake news.
Tu avais dit que le vinaigre blanc. Tu avais dit que le vinaigre blanc cachait des mauvaises odeurs.
Oui.
C'est le cas aussi de la merde.
Oui.
C'est-à-dire que ça.
Ça cache, ouais.
Mais
ça
la merde, c'est une mauvaise odeur.
Ça domine
plus.
Oui, mais ça cache d'autres odeurs que tu voulais cacher.
Oui.
C'est-à-dire que tu mets de la merde, ça cache l'odeur que tu voulais cacher, forcément.
C'est vrai.
La sueur ne.
Non, c'est
à ne pas confondre d'ailleurs. Nettoyez pas vos joints avec de la merde.
Non.
Non, parce que faut repasser du vinaigre blanc par-dessus.
C'est-à-dire que le vertueux.
Vous ne pouvez pas non plus mesurer le pH ou éloigner le chat.
Exactement.
Vas-y, éloigner le chat.
Alors, il ne favorise pas aussi l'afflux sanguin dans certaines parties du corps. Moi j'ai essayé personnellement, il n'y a pas eu de
traveineuse,
il n'y a pas eu
rien passé.
Non, ouais.
Par contre, tu dois être propre.
Alors l'afflux sanguin, l'alcool fluidifiant le sang et le permettant de circuler plus vite, le vinaigre blanc par définition peut améliorer l'afflux sanguin.
Je t'en dis pas plus.
Ok.
Voilà, c'était une petite aparté comme ça qu'on faisait sur l'ajout de chronique. Hein,
écoutez, je suis ravi que vous ayez abordé ce sujet.
On aimerait bien que. Pardon maman, finalement, vu qu'on vous a donné des sujets un peu
polémique.
Touchy, un peu polémique,
on est un peu sérieusement.
Que vous décidiez d'un prochain sujet de Pimpampouma. Ah. Donc on vous laisse la réflexion.
Ah oui, il faut qu'on y réfléchisse.
Et on s'engage à faire un sujet, donc du coup.
Eh bien, nous l'annoncerons en place publique sur Twitter avec le compte.
Ah, ils sont chauds les mecs. Très
hashtag.
Non, très, très.
Vous êtes joueur, vous êtes
hashtag
joueur.
Hashtag Pimpampsubi.
Act up, go.
Voilà. Mais merci à vous.
Eh ben non, mais merci à vous, c'était un plaisir de vous accueillir.
Ouais, franchement, c'était marrant.
Non, c'était.
On a bien
merci à vous
c'est
de nous avoir.
Un peu fait chier sur le
non,
début.
Non, merci à vous.
La première chronique, après dès la deuxième chronique,
la chronique
en flèche. Et après, c'est un peu redescendu.
Ouais, c'est. Ah, y en a qui.
Un bon moment pour toute la famille.
Sujet un peu trop sérieux. Non, c'était cool, c'était un plaisir, c'était un bonheur. D'ailleurs, on conseille d'écouter le podcast Ping Pam Poum, comme on disait, un petit mélange de Edouard Baird, les Robins, les Nuls.
Où est-ce qu'on peut vous trouver d'ailleurs?
C'est gentil, sur toutes les plateformes sauf Deezer, puisqu'on parle pas assez bien anglais pour Deezer.
Ah.
Et que ça fait un mois qu'on attend une réponse.
Voilà, très bien. Mais on peut nous trouver sur SoundCloud.
On vous aidera, on a des contacts.
Sur Podcast Addict pour les pauvres qui ont un Android.
Sur des applications. Ouais. Je ne connais même pas, mais SoundCloud, Facebook, iTunes, le lot commun de toutes les entrées podcastiques.
LinkedIn bientôt peut-être.
La plus belle compagnie en tant qu'institution, on l'est, mais pas nous, personnellement.
Voilà. Alors, je me permettrai un témoignage sur l'éclectisme des sujets abordés. Ça peut être perturbant pour une personne qui arrive sur votre podcast et qui se dit de quoi ça parle. Bah, justement, ça parle de tout. C'est là qu'est le piège.
C'est vrai. C'est
voilà,
vrai.
Donc si vous voulez entendre parler de tout, c'est l'occasion.
C'est un peu dur à décrire finalement. Donc après, on laisse les gens écouter. Mais en tout cas, on vous remercie pour l'invitation. Et on a passé un très bon moment
très,
en parlant
très bon
de
moment.
Tout aussi, de n'importe quoi.
Et on a enfin compris pourquoi c'était très intéressant. Parce qu'à chaque fois, on entend cette phrase. C'était très intéressant. Et c'est vrai que c'est très intéressant.
Et,
intéressant fois. Et bravo à vous parce que franchement,
très
vous,
intéressant.
Vous rendez les choses très intéressantes.
Vous pouvez revenir quand vous voulez.
C'est gentil. Je note, je le dire un peu moins. Non, c'était cool. Du coup, nous, on va se retrouver dans 2 semaines.
Oui.
Pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter et à nous envoyer des petits messages. On a déjà eu un petit message.
Dites-nous ce que vous en pensez. Des feedbacks.
Vous pouvez envoyez aussi nous envoyer des sujets parce qu'on traite vos sujets.
J'en m'en donnerai à cœur joie.
Ouais. Et puis, du coup, dans 2 semaines. Salut!
C'est vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Il y a des gens qui doivent partir.
Moi, j'ai un très beau grain de voix.
Moi, je dors ici, donc il n'y a pas de problème. Après.
De toute façon, j'ai racheté l'immeuble en dessous.